Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Comme nous, on est à moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous avez fait déjà votre choix? Allez, je vous fais un résumé de la situation. On a un président bientôt candidat, mais qui attend que la pandémie se calme. Un président finalement en plein tourment.
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Et puis on a ceux qui aimeraient bien l'affronter, être face à lui au deuxième tour, Pécresse, Le Pen et Zemmour. Et puis bien sûr, il y a la gauche, Mélenchon, Jadot, Roussel, Hidalgo et Taubira encore hier.
Au suivant.
Voilà pour le résumé. Plus sérieusement, gros meeting de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à Nantes. Son principal lieutenant, Adrien Quatennens, sera mon invité à 7h10. Nous sommes le dimanche 16 janvier. Soyez le bienvenu dans votre matinale week-end. Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Mounier qui vous informe, première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Peut-on se faire vacciner si on n'est qu'à contact? Les tests positifs se multiplient et les questions qui vont avec aussi Europe 1 vous répondent dès le début du journal.
Diviser ou rassembler, Christiane Taubira a donc officialiser sa candidature à la présidentielle au risque de créer un embouteillage à gauche.
On parlera de sport et notamment du mondial de handball. Et pour l'instant, c'est un sans faute pour les Bleus.
Dans la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. Mélanie Gomez et Julia Vignali se demanderont si on peut se cultiver sans se ruiner. Et puis à 6h23, Mathieu Noël plaidera pour une victoire de Jean-Luc Mélenchon en avril prochain. Mais tout d'abord, bien sûr, la tendance météo avec vous, chère Valérie Darmon, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Changement de configuration, temps humide le long de la Manche et puis sur un tout petit tiers nord au fil de la journée jusque sur le bassin parisien. Nuageux donc sur toute la moitié nord et soleil dans le sud et toujours du froid.
Détail météo dans 7 minutes. Alors, on nous parle beaucoup de la vaccination avant l'arrivée du pass vaccinal dans les prochaines heures, mais y sommes-nous tous éligibles à n'importe quel moment?
Oui, vous êtes sans doute retrouvé dans cette situation ces dernières semaines avec la multiplication des cas. Vous êtes cas contact, mais vous avez un rendez-vous pour une vaccination dans les jours suivants. Est-ce qu'il est dangereux dans ce cas de se faire vacciner? Et si on est asymptomatique, comment ça se passe? Eh bien, on fait le point avec Yasmina Katou.
Premier cas de figure, vous apprenez à être cas contact. Or, vous avez rendez-vous le lendemain ou 2 jours après pour vous faire vacciner. Vous devez attendre 7 jours après votre dernier contact avec la personne positive avant de recevoir votre dose. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est le délai maximum d'incubation pour déclarer ou non des symptômes. Deuxième exemple, vous êtes cas contact et votre test révèle que vous êtes positif. Cependant, vous ne développez aucun symptôme, mais même asymptomatique. Automatique, votre système immunitaire est stimulé. Pas besoin de vaccin, une infection équivaut à une dose. Enfin, dernier cas, vous vous faites vacciner et attraper le Covid les jours suivants. Pas d'inquiétude, dit Emmanuel Piednoir, infectiologue.
Il n'y a pas de risque particulier à faire un Covid dans les jours qui suivent une vaccination. Par contre, quand la Covid est concomitante à une vaccination, on considère que ça correspond à une seule et même stimulation immunitaire quand il y a moins de 15 jours entre la Covid et la vaccination.
Comprenez donc que si c'était votre deuxième dose, le fait d'avoir eu le Covid et un vaccin dans un délai de 15 jours vous oblige tout de même à recevoir une dose de rappel.
Les explications de Yasmina Katou pour Europe 1 et le nombre de contaminations, il augmente 6% en une semaine. En revanche, le nombre de personnes hospitalisées en soins critiques baisse pour le 3e jour de suite.
Le pass vaccinal arrive dans les prochaines heures.
Oui, le texte a été adopté par le Sénat, même si ce dernier a maintenu certains points de désaccord avec l'Assemblée nationale. Un futur pass vaccinal qui perd en popularité. On a prend dans les colonnes du JDD ce matin que 58% des Français y sont favorables. 5 points de perdu par rapport à la dernière enquête sur le sujet. Moins de convaincus et paradoxalement moins de monde aussi dans la rue pour s'y opposer. Hier, 54 000 personnes ont défilé contre ce pass, 2 fois moins que la semaine passée.
La santé qui s'invite dans la campagne.
Oui, pas pour parler crise sanitaire, mais bien hôpital. Des représentants du secteur sanitaire écrivent une lettre ouverte sommant les candidats à l'élection de proposer de vraies réformes du système de soins. 55 organisations réclament un grand débat télévisé sur le sujet.
La politique et la gauche qui comptent une candidate de plus.
Oui, c'est officiel. Christiane Taubira s'est lancée hier à Lyon. Elle dit vouloir se soumettre aux résultats de la primaire populaire. Seule chance d'union à gauche. On le sait, ses concurrents immédiats n'en veulent pas. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont déjà dit non. Christiane Taubira, qui était l'invitée du 20h de France 2 hier soir, elle ne se voit pas comme une simple candidate supplémentaire.
Moi, je dis très clairement que je reconnais les règles de la primaire populaire et que je reconnais d'avance le résultat de cette primaire populaire. C'est-à-dire que puisque l'Union est reconnue comme indispensable, qu'elle n'a pas été accomplie à l'échelle des candidats, qu'elle ne l'a pas été non plus à l'échelle des partis politiques, le dernier espace démocratique qui rend possible cette union, c'est la primaire populaire. Donc pour ce qui me concerne, je suis dans une cohérence du début à la fin.
Christiane Taubira et réaction d'Anne Hidalgo, maire de Paris ce matin, candidate PS à la présidentielle, c'est projet contre projet.
Valérie Pécresse, de son côté, était en Grèce pour parler immigration.
Oui, la candidate veut sortir d'une campagne autour de la seule crise sanitaire et mise à nouveau sur le régalien. Alexandre Chauveau, sur la question de l'immigration, la candidate LR veut se démarquer de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais aussi du chef de l'État, Emmanuel Macron.
Oui, et Valérie Pécresse aime à le répéter. Elle se présente comme la candidate des solutions, capable de traiter tous les sujets sans tabou mais sans outrance. Elle souhaite ainsi appliquer la politique migratoire grecque à tous les pays frontaliers de l'espace Schengen. Une politique humaine mais ferme, dit-elle, symbolisée par le centre de contrôle de migrants de l'île de Samos, visité hier. Des préfabriqués alignés, à l'intérieur desquels se trouve une chambre partagée, une douche et une petite cuisine, mais cernés à l'extérieur par des barbelés pour mieux contrôler les entrées et les sorties, traiter les demandes d'asile à l'intérieur du camp et faciliter les expulsions le cas échéant. La candidate veut en finir avec les camps de migrants à ciel ouvert, aux conditions d'hygiène souvent déplorables, mais cet accueil a un coût, 43 millions d'euros pour le centre fermé de Samos, entièrement financé par l'Union européenne. Valérie Pécresse compte donc, si elle est élue, soutenir ce type d'initiative pour filtrer du mieux possible les entrées en Europe et réduire de manière conséquente le flux de clandestins. Politiquement, ce déplacement est aussi évidemment un moyen de ne rien céder à ses opposants sur l'immigration, un thème clé pour l'électorat de droite.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, et je précise que Valérie Pécresse est l'invitée demain matin, 8h15-9h sur Europe 1 dans la matinale. L'actualité de la nuit au Texas, une prise d'otage dans une synagogue est à présent terminée. Tous les otages ont été libérés sains et saufs. Selon la chaîne ABC, il y avait 4 otages dont un rabbin. Le preneur d'otages est mort, on vient de l'apprendre.
On commence à aller voir dans les grandes villes françaises, les voitures chinoises électriques débarquent en France.
Oui, elles sont moins chères, elles sont plus autonomes et les constructeurs sont davantage réactifs face à la pénurie de puces électroniques qui affaiblit le marché français. Explication Aurélien Fleureau.
Évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour arriver sur un marché. Crise sanitaire, pénurie, immatriculation historiquement basse depuis 2 ans, mais le virage inéluctable vers la voiture électrique et les grandes ambitions des constructeurs chinois ont contribué à l'arrivée de CRS, IOS, Link & Co. et de MG, le plus ancien de ces nouveaux et le plus connu puisque c'est le géant chinois SAIC Motors qui a racheté et relancé la marque britannique. Présente en France depuis mai 2020 avec un réseau de 120 distributeurs, elle a vendu près de 5000 voitures l'an dernier. Des débuts encourageants expliqués par Julien Robert, le directeur des ventes.
On a un avantage, c'est qu'on a une gamme à la fois très simple. On n'a pas d'option, ou à part le choix de la couleur du véhicule. Et on a la même gamme partout en Europe, ce qui fait qu'on a des capacités à produire les véhicules et à les acheminer. Et ça nous permet, en ayant des véhicules électriques et des véhicules plug-in hybrides, de sortir un peu du lot parce qu'on a un réseau et parce que nos clients ils peuvent aller chez leur concessionnaire, voir la voiture et la commander directement.
Et la concurrence va s'accentuer. Un autre géant chinois, Great Wall Motors, arrivera cette année, tout comme VinFast, un constructeur vietnamien.
Les précisions d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Les sports à présent, beau succès des Bleus du hand hier soir.
Oui, c'est le mondial en ce moment, 36-23 contre l'Ukraine et voici un deuxième succès qui place les Français en tête de leur groupe. C'est bon pour la confiance avant d'affronter la Serbie, nous dit le sélectionneur Guillaume Gilles.
Ouais, c'est une partie très sérieuse contre un adversaire à qui on a su faire rendre les armes et à qui on a posé beaucoup de problèmes. Donc ça reste un match qui est abouti, un match qui nous permet aussi de continuer d'avancer dans ce tour préliminaire avec plein de satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup de rotation et tous les joueurs qu'on a mis sur le terrain ont amené quelque chose de très positif à cette performance collective. Donc c'était une très bonne préparation en vue de cette petite finale de groupe.
Le sélectionneur de l'équipe de France de hand, Guillaume Gilles.
Et puis en football, Ligue 1, Lennec Monnier est bien triste ce matin, mais ce n'est pas une surprise. Le PSG l'a emporté face à Brest.
Oui, un succès logique 2-0 avec des buts de Mbappé et de Kerrer. Mais Paris retrouve le goût de la victoire, ce qui vaut mieux à un mois du match PSG-Real en Ligue des Champions. Et puis, côté tennis, faudra attendre encore un petit peu pour savoir si Novak Djokovic peut jouer l'Open d'Australie demain. La Cour fédérale australienne décide dans la journée si elle l'expulse ou pas. Le tournoi commence demain.
Et c'était le journal de Lennec Monnier. À tout à l'heure,
Lennec.
Merci. Alors, le temps de votre dimanche, Valérie Darmon, on perd le soleil au nord.
Et oui, et je salue Sophie, Antoine, Julie, Olivier, nos fidèles auditeurs d'Europe 1 qui nous saluent déjà et qui, pour certains d'entre eux, sont déjà dans les brouillards givrants ce matin du côté de Reims pour Flavienne ou encore sous la neige en Isère. Et puis des brouillards également dans le sud-ouest, en terre bretonne, au sud de la région parisienne, en Champagne. Beaucoup de brume sur toute la moitié nord. Du nord de la Bretagne aux côtes de la Manche, quelques gouttes qui tombent et cette faible perturbation qui va gagner la région parisienne à la mi-journée, avec des flocons qui tombent déjà sur les Ardennes. On est donc dans un changement de configuration pour la moitié nord.
Dites donc, madame, la grisaille, elle a des chances de disparaître, de se morceler, de faire...
Eh bien, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Le ciel qui va rester gris toute la journée, de l'estuaire de la Gironde au plateau Lorrain, avec quelques gouttes possibles, la grisaille qui est tenace dans le Val-de-Saône, avec des éclaircies qui parviennent à se développer en région lyonnaise. Pour trouver le soleil, il faut descendre au sud. Je vous donne la délimitation. Pays basque, massif central, relief de l'Est. Alors en montagne, c'est le bonheur. Le soleil qui reste aussi généreux qu'hier. Et puis dans la soirée, on a le Mistral et la Tramontagne qui soufflent chacun dans leur domaine un petit peu.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Allez, dans un instant, on va vous donner plein de conseils pour se cultiver sans se ruiner. Puis à 6h20, la plaidoirie de Maître Noël, on va parler politique avec lui aussi. On parle de Mélenchon et de la gauche. Mais avant cela, les pronostics bien sûr pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger. Thierry est là.
Bonjour Thierry, c'est un quintet très attendu qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Belgique, la dernière épreuve qualificative au prochain prix d'Amérique qui va se courir dans 15 jours. Et parmi les 15 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection les numéros 15, Davidson Dupont, et 14, Delia Dupomereux, classés dans cet ordre aux deux premières places de cette même épreuve l'an dernier et qui me semble être à nouveau dans le même état de forme cette année et donc prêt à rééditer. L'opposition sera constituée par les numéros 9, Guderi Pré, désormais proche de sa condition physique optimale après avoir été éloigné des pistes durant plus de 6 mois en raison d'une fracture. 8, Feliciano, dont la dernière sortie dans le prix de Bourgogne est assurément bien meilleure que ne l'indique son classement. Et 13, Zacangio, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification, car je sais que des réglages ont été effectués depuis le matin à l'entraînement par son maître entraîneur Jean-Michel Bazir. Enfin, les numéros 6, Violetto Jet, 4, Rebel Amateurs et 3, Fedo Seven peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet, agrémenté d'une tirelire de 500 000 euros. Mon pronostic, 15, 14, 9, 8, 13, 6, 4 et 3.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h12, Europe 1 parle de vous, parle de nous avec les meilleurs moments de l'émission bien fait pour vous, tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine Muriel Jourdan, journaliste au magazine Avantage, pour répondre à cette question. Peut-on se cultiver sans se ruiner?
Le prix, c'est un facteur important quand on veut se cultiver?
Ah oui, beaucoup, parce que quand on voit certains tarifs, notamment si on veut se faire un spectacle, on peut sursauter et du coup se dire je ne vais pas pousser la porte de ces sanctuaires-là. Et il n'y a pas qu'à Paris que c'est cher. Il y a maintenant Lyon, Bordeaux, toutes ces villes-là ont emboîté le pas et proposent des tarifs parisiens.
Et donc certaines familles ne sortent pas, ne font pas de sortie culturelle parce que c'est le budget qui coince.
Oui, c'est le budget qui coince. Et puis on n'a pas toujours le temps de planifier ça trop à l'avance. On a envie parfois de se dire j'ai envie de faire ça ce soir. Ah ben non, je ne peux pas. Ce n'est pas un achat comme ça spontané. La culture, c'est souvent un achat qui est réfléchi. Et là, le tarif a de l'importance.
Muriel, est-ce qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de lieux culturels ont fermé, évidemment, mais est-ce que c'est ça qui a motivé l'écriture de ce dossier dans Avantage ?
Oui, entre autres, parce qu'on s'est tous rendu compte à la rédaction du magazine Avantage qu'il fallait vraiment se sortir la tête de cette crise sanitaire. Donc, je vais pas vous mentir, ça a été difficile pour tout le monde, y compris pour nous qui avons fait ce papier. On a vu la capacité, le besoin de se réinventer. La culture, elle a réussi ça avec toutes ces choses numériques, ces richesses qu'on a vues voir. C'est-à-dire que maintenant, on peut regarder un opéra sans bouger de chez soi. On peut voir des films sur des plateformes, des films d'auteurs, sans forcément aller les voir dans des salles compliquées à trouver. Il y a vraiment de nouvelles expériences qui sont nées pour les publics. Il y a eu des visites, des concerts virtuels, une espèce de communion retrouvée avec le public. Et ça, c'est génial.
Muriel, on va commencer par se cultiver avec quelques applis sympas que vous allez sélectionner pour nous. D'abord, il y a une appli de quiz qui s'appelle Coach Culturel. C'est quoi cette appli ?
Alors ça, c'est une appli très simple. Vous avez plusieurs thématiques. Il y a des questions avec plusieurs choix, puis vous répondez. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de jouer à plusieurs. Vous pouvez jouer tout seul, vous installez ça. C'est gratuit. Alors, il y a quand même un bémol, c'est que je dis que c'est gratuit, mais il y a de la pub. Donc forcément, on est parfois un peu interrompu ou il y a des encarts pub qui s'affichent. Donc vous pouvez toujours opter pour une version premium, comme c'est le cas dans beaucoup d'applis qui existent. Alors ça coûte quoi, à peu près un peu moins d'une dizaine d'euros. Donc c'est
en tout.
En tout. Ah, oui. Donc c'est vraiment pas cher et je vous conseille de le faire pour pas être embêté.
Et par la pub. Alors justement, je vous propose, on va faire un petit quiz sur Coach Culturel, justement ici en studio.
On se met dans l'ambiance.
Attention, c'est parti. Clément, la nous, vous êtes resté avec nous ?
Je reste.
Est-ce que vous êtes prêts ? Julia, allez-y. Alors là, c'est la musique du suspense. De quelle nationalité est le groupe ABBA ? Petit A, suédoise, petit B, finlandaise, petit C, anglaise, petit D, irlandaise.
On l'a, je pense qu'on l'a. C'est un travail d'équipe. On dit suédois ?
Ouais.
D'ailleurs,
je vous conseille de visiter le musée ABBA à Stockholm, qui est formidable. Mélanie, une autre
question.
Une autre question. Dans quel pays peut-on admirer le mont Parnasse ? Attention, petit A, France, petit B, Italie, petit C, Espagne, petit D, Grèce. Clément Lanoux ?
La Grèce.
Bravo.
Il est bon.
Julia, une dernière. Quel super ordinateur développé par IBM a battu Garry Kasparov aux échecs en 1997 ? Petit A, Columbia, B, Deep Blue, C, Myrinet ou Myrinet, D, Super UX.
Alors là, c'est moins mon domaine. C'est moins mon domaine.
Bah, moi, j'ai la réponse, bien sûr. Oui.
Ah, moi, je dis au hasard. La deuxième avec Blue.
Oh, la chance.
C'est un sans faute.
Bon. Alors, Muriel Jordan, en quoi ça consiste finalement, en quoi ça change ça, là, ce petit jeu qu'on vient de faire et qu'on peut faire donc sur cette appli Coach Culturel par rapport au Trivial Pursuit classique, par exemple ?
Alors, le Trivial Pursuit, imaginez, vous êtes le samedi soir chez vous, il faut quand même trouver des coéquipiers. Quand vous avez un mec qui est bloqué sur une série télé et des enfants en bas âge, vous dites, je suis toute seule, comment je fais ? Je ne peux pas jouer. Alors là, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre son téléphone. On fait ça au coin du feu ou dans son canapé, on joue tout seul. Il y a plusieurs choix qui s'affichent et ça, c'est bien.
Oui.
Parce que ça nous évite de nous taper la honte, parce que souvent, on se retrouve comme ça face au vide, on se dit, mais je n'ai aucune réponse.
Dans Trivial Pursuit, par exemple, j'y ai joué pendant les vacances de Noël. Pas toujours. Parfois,
il faut donner une réponse. Et là, on est bloqué, on a le cœur qui bat, on se dit, mince, je suis nul.
Sauf que quand on a la bonne réponse, c'est la classe internationale.
Ah, ouais, là, c'est vrai. C'est la classe internationale.
Alors, il y a aussi l'appli Mémorable, créée par le journal Le Monde pour apprendre en s'amusant. Comment elle fonctionne celle-ci ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Là aussi, c'est des quiz ?
Oui, alors au magazine Avantage, on a adoré cette appli. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle est super bien faite. Vous avez chaque jour une leçon de 10 minutes sur un thème. Alors, il y a des questions. Si vous répondez mal, vous n'allez pas avoir le gros buzz, comme dans une émission de télé qui va vous afficher. Pas du tout. On va simplement vous donner la bonne réponse et vous donner des explications. On va vous rappeler une date importante, un contexte. C'est un peu le prof d'histoire géo dont on a toujours rêvé, qui est cool, qui est pédagogique et qui éclaire le présent avec la mémoire du passé. C'est un peu ça, l'esprit. J'ai trouvé l'appli vraiment bien faite. Elle est gratuite pendant 7 jours. Le contenu est vraiment très riche, très enrichissant. Et il y a même une offre pour les 12-25 quand ils passent des examens pour réviser le bac. Ça, c'est génial.
Je le note. Bon, alors moi, en ce moment, j'ai plutôt des envies de culture en plein air, on va dire, et peut-être même des envies scientifiques. Qui sait, ça peut nous arriver aussi. Et là, on peut faire un vrai cours de SVT en se promenant dans la nature. Avec quelle appli en support ? Quelle appli vous nous proposez ?
Alors moi, j'ai installé Picture This. Excusez-moi pour l'accent, c'est pas, il faut que je fasse
je l'ai, celle-ci.
Ouais. Il faut que j'apprenne l'anglais, moi, c'est une appli. C'est pour reconnaître une espèce de plante, une fleur, une variété de, je sais pas, d'arbres, par exemple. Donc, vous prenez en photo, je sais pas, un chêne, et là, on va vous donner...
J'ai téléchargé pendant le premier confinement, celle-ci, c'est dans mon tout petit jardin en ville. Et maintenant, je sais exactement tout ce qu'il y a, même les mauvaises herbes dans mon jardin.
Faites-le pour les champignons, enfin non, je sais pas, en fait. Moi, je le ferai pas, je m'y
risquerai
pas.
Et pour les gens, quand vous les croisez aussi, c'est ah, c'est lui, c'est donc lui. Voilà.
C'est
pas mal pour les cours de SVT, ça aussi, pour réviser, mine de rien, non ?
Oui, c'est vachement bien. Mais alors, là, c'est pas tout à fait gratuit. C'est-à-dire, il y a une version gratuite.
Moi, j'ai jamais payé, en tout
cas. Le strict minimum, moi non plus. Mais après, si vous voulez aller plus loin, que vous êtes vraiment féru de jardinage ou autre, je vous conseille vraiment, là encore, c'est une dizaine d'euros, de l'installer en version premium.
Alors, il y a également l'appli BirdNet. Celle-ci, elle fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle propose ?
C'est pour reconnaître les bruits d'oiseaux. Vous connaissez Shazam ?
Bien sûr, bah, voilà. C'est Shazam, le bruit des oiseaux.
Bah, voilà, c'est ça. Vous avez un...
Attendez, justement, on a un extrait, là.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Coucou. Clément Lanoux, qu'est-ce que c'est ?
Ça, j'ai l'impression que c'est un coucou.
Ah, c'est difficile. Le bouvreuil pivoine. Non, je plaisante, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Un merle.
Mais c'est un coucou.
Ah oui. Ah.
Celui-ci, plus difficile.
C'est un corbeau.
Ben non, c'est un corbeau.
C'est un corneille ou corbeau.
Corneille ou corbeau.
Ouais. Ça fait peur, en tout cas. Ouais.
Ah. Petit rossignol.
Ouais. Non, c'est un merle. Clément, un merle. Le dernier. Désolé.
Un merle.
On en a encore.
Ça, c'est un piège, c'est un dauphin. Non, non, c'est une mouette ou...
On est
près de la mer, c'est
Clément,
un...
Clément, oui, c'est mon fils. Belle queue, imaginez, j'ai une belle queue.
Enfin, c'est un oiseau, c'est un pan, très queue, bien.
Voilà. Voilà, bien fait pour vous, du lundi au vendredi, de 11h à 12h30.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'info express à 6h20, Léna Hickmonier.
Et la crise sanitaire tire-t-elle à sa fin ? En tout cas, plusieurs infectiologues, comme le professeur Alain Fischer, évoquent une potentielle accalmie dans la pandémie vers le mois de mars. Mais en attendant, les contaminations se poursuivent. 325 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de personnes en soins critiques baisse néanmoins pour le troisième jour de suite. Le pass vaccinal adopté par le Sénat à 187 voix pour, 66 contre. Deux amendements ont été ajoutés. Les professionnels n'auront pas besoin de procéder à des vérifications d'identité. La Chambre haute supprime aussi l'amende administrative pour non-respect par l'employeur des règles du télétravail. Christiane Taubira a officialisé hier sa candidature à la présidentielle avec pour objectif de rassembler la gauche. Sa principale rivale, Anne Hidalgo, contre-attaque ce matin dans le JDD. C'est une candidature qui va diviser. La déception pour les fans de Céline Dion, la star québécoise annule sa tournée appelée Courage aux États-Unis en cause des problèmes de santé persistants. La star devait reprendre sa tournée le 9 mars à Denver. Et puis lui espère ne pas annuler sa présence à l'Open d'Australie. Novak Djokovic est toujours dans l'incertitude. Il saura dans les prochaines heures s'il est expulsé ou pas du pays et s'il peut défendre son titre à Melbourne. Le tournoi débute demain.
Merci Lénaïque. À tout à l'heure. Dans un instant, le meilleur de Mathieu Noël, puis de la musique avec le grand retour d'Abba. Merci d'être avec nous sur Europe. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Mathieu Noël à présent, maître Mathieu Noël qu'on réécoute le dimanche matin à cette heure-ci. Mathieu qui se fait l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Ne quittez pas, on revient, c'est maintenant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
L'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Aujourd'hui maître, vous représentez Jean-Luc Mélenchon. Il a décidé d'attaquer Manuel Valls en diffamation suite aux propos de l'ancien Premier ministre qui a tenu hier au sujet de la gauche qui risque selon lui, je cite, d'être totalement hors-jeu lors de l'élection présidentielle. À la fin, quand on est plus utile, on disparaît. C'est ce qu'a dit Manuel Valls. Hein.
Oui, alors je tiens d'abord à dire que mon client ne disparaît pas puisqu'il vient d'être condamné hier pour injure publique et diffamation. Il est donc toujours en pleine lumière, n'en déplaise aux fossoyeurs de la gauche. Deuxième point, très rapidement. J'ai beaucoup de respect pour les socios du Barça, reconvertis consultants pour Chaîne Info. Olé. Mais Manuel Valls, qui donne des conseils à la gauche, c'est un peu comme si Raymond Domenech donnait des conseils tactiques à Didier Deschamps. À un moment, il faut quand même être sérieux. Non, n'en déplaise à Valls, la gauche n'est pas morte et elle va au contraire, vous allez voir, créer la surprise en 2022.
Vraiment ?
Non, ben, pas vraiment Einstein. Hein. T'as vu les derniers sondages, Taubira décolle pas, Hidalgo est à 2, Roussel à touche-touche avec Poutou et Méluche décroche. Non, mais je suis avocat. Avocat, c'est l'école du barreau et le cours Simon. Il faut donc savoir tout jouer, le client est roi. Je disais donc, non Manuel Valls, suppôt vendu au grand capital. Nous n'avons aucune leçon à recevoir du social traître qui en 2017 a fui le combat pour aller bouffer des churros sur la Rambla. La gauche n'est pas morte, elle va même créer la surprise en 2022. Comment ? Et oh putain, comment? Je l'avais mis dans mes notes, ça. Vous n'avez pas vu un post-it rose? Un petit post-it.
Mais vous avez beau être un formidable acteur, oui, incontestable. Oui, vous pouvez pas nier qu'il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai dans l'analyse de Manuel Valls. Hein. Divisé, incapable de s'unir. Tous les ingrédients sont réunis pour que la gauche aille dans le mur en avril. Hein.
Monsieur Pavlenko, je sais votre amour pour Jean-Luc Mélenchon et au-delà, pour la pensée de gauche dans son ensemble. Un amour tel que vous avez même parfois du mal à prononcer le mot.
Beaucoup de réactions également au sein de la classe politique, à droite comme à gauche, pardon.
Mais on sent qu'ici, certains ont plus de mal à sortir que d'autres. Et c'est dommage. Car oui, c'est vrai, je vous le concède, en termes d'enthousiasme, de dynamique, la gauche a connu des jours meilleurs. Clairement. Surtout chez les militants du Parti Socialiste.
De qui ?
Du Parti Socialiste, Dimitri. C'est un parti que vous êtes trop jeune pour avoir connu, mais qui a eu son heure de gloire quand Bétou était au lycée. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu pousses la porte d'une permanence du PS. T'as l'impression de tomber dans un groupe de paroles pour dépressifs qui se sont réunis pour écouter le dernier album de Stromae.
J'ai parfois eu des pensées suicidaires.
Oui, enfin eux aussi, c'est pas... Alors, mais heureusement, tout n'est pas perdu, puisque oui, j'ai retrouvé le post-it. Mais je l'ai retrouvé, celui où j'avais noté pourquoi Jean-Luc Mélenchon allait l'emporter en 2022.
Alors, dites-nous vite, Nicolas Bétou est suspendu à vos lèvres.
Tout petit,
pourquoi Jean-Luc Mélenchon va-t-il l'emporter en 2022 grâce à des propositions sociales fortes?
Non, ça, grosso modo, on a les mêmes que Taubira, Jadot et l'apiculteur. Non, grâce à une véritable... Non, grâce à une véritable révolution, Pavlenko. Les meetings en odorama. Ah. Dimanche à Nantes, les militants ne vont pas en revenir. Céline Dion au Stade de France à côté, c'est Dimitri qui chante sous sa douche.
Je n'ai pas condamné à l'échec.
Oh non,
le son des combats.
Oh, c'est pas mal, remarquez, c'est pas mal. Mais ça sera encore plus fort. Ça sera une première mondiale. C'est le député La France Insoumise, Bastien Lachaud, qui l'a annoncé. Après le coup de génie de l'hologramme, on va assister cette fois au premier meeting olfactif de l'histoire. Des parfums seront diffusés.
Mais ça sert à quoi?
À rien, mais c'est ça qui est beau. Dans une campagne déjà difficile, écrasée par le débat sanitaire et où la gauche est inaudible, quoi de plus efficace pour la relancer que de vaporiser du Febreze sur des militants? Parmi les odeurs projetées, celle de l'espace, nous annonce-t-on, un parfum de poudre à canon, de steak grillé, de framboise et de rhum, nous précise Bastien Lachaud, visiblement très investi dans la préparation de ce meeting.
Ah oui.
Quid des masques FFP2 qui vont être distribués, me direz-vous? C'est vrai, une pandémie mondiale obligeant le port d'un masque, c'est peut-être pas le timing idéal pour lancer le concept génial du meeting olfactif. Que nenni, nous répond-on chez les insoumis, pour qui, je cite, ça ne devrait pas empêcher de profiter des parfums. Ouf, se dit Nicolas Bétou. Oui. Tout ça, évidemment, nécessite une grosse organisation en amont. Je cite, il faut ventiler et aérer les lieux pour ne pas que les odeurs se mélangent entre elles et ça peut prendre du temps. Nous sommes en train d'ajuster les derniers détails. Ah bah oui, bossez bien les derniers détails, ça serait con. Bref, vous l'avez compris, les accusations de Manuel Valls insinuant que la gauche serait en panne d'idées sont tout à fait grotesques. Le meeting olfactif, voilà la grande idée.
Ah oui.
Celle qu'a cherché toute sa vie sans la trouver, Jaurès. Dans sa tombe, Léon Blum aussi doit faire son autocritique. Diable, si j'avais eu l'idée du meeting olfactif, le Front Populaire n'aurait pas été balayé en 38. Mais non, Léon, c'est mon client, Jean-Luc Mélenchon, qui a eu l'idée qui va sauver la gauche. On peut d'ailleurs imaginer des variantes encore plus interactives dans les meetings de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. On diffuserait un parfum pinard saucisson, tout le monde s'exclamerait en cœur.
Yeah.
Puis un parfum méchoui. Si la politique n'en sort pas grandi, ça sera vraiment la faute à pas de chance. À La France Insoumise, en tout cas, on aura tout fait pour élever le débat. Allez Dimitri, pour me faire plaisir, dites-le. Il y a parfois des bonnes idées, ou ça?
À droite comme à gauche.
Bah, ça peut pas. Bah, je vous donne mon post-it.
Vous m'enregistrez même sous la douche maintenant. Vous êtes scandaleux. Merci maître. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
Allez, voilà, dans 3 minutes, le journal met tout de suite à bas. Grand retour en novembre dernier avec leur album Voyage. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et je vous rappelle notre page Facebook, hein, vos questions, vos réactions, vos suggestions, c'est notre lien bien sûr. Notez-le bien, Europe Matin Weekend, 6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin. Clément Gouiz, bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. La vague Omicron approche-t-elle de son pic en France? On note toujours plus de 300 000 cas quotidiens, mais depuis 3 jours, le nombre de patients en réanimation baisse. Certains spécialistes parlent d'une possible accalmie en mars. On fait le point en début de ce journal.
Le torchon brûle à gauche, la candidature de Christiane Taubira irrite Anne Hidalgo. La maire de Paris ne comprend pas son choix. Elle le fait savoir dans une interview au JDD aujourd'hui.
L'état de santé de Céline Dion inquiète ses fans. La chanteuse renonce à sa tournée nord-américaine. Elle devait se produire à partir de mars dans une quinzaine de villes.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, à 6h40, Philippe Legrand reçoit Elisabeth Bourgine, l'actrice de la série de France 2 aux 8 millions de téléspectateurs, Meurtre au paradis. À 6h50, la balade du dimanche nous emmènera dans les Alpes en compagnie de Vanessa Zah. Et puis, nous irons également également découvrir la production de carottes du Mont-Saint-Michel avec Marion Sauveur. Mais d'abord, la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, de petites pluies fines et des nuages bas entre Saint-Malo et Calais. Et cet après-midi, entre le nord de la Bretagne et les Ardennes. Attention entre le sud-ouest et le nord-est au brouillard givrant et aux chaussées glissantes. Et du beau temps partout ailleurs, surtout sur les reliefs de l'Est.
Point complet, bien sûr, à la fin de cette édition.
Europe 1.
Quand la cinquième vague va-t-elle prendre fin? C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr.
Le nombre de cas de contamination bat des records quotidiens, 324 580 lors des dernières 24 heures. La pression reste toujours forte dans les hôpitaux. 24 544 personnes sont actuellement prises en charge. Par contre, le nombre de patients dans les soins intensifs baisse légèrement depuis 3 jours. Plusieurs immunologues et infectiologues, comme le professeur Alain Fischer, ont évoqué une potentielle accalmie vers le mois de mars. Un ralentissement du virus liée à la contagiosité d'Omicron qui doit être prise avec des pincettes, selon Arnaud Chiche, urgentiste.
C'est bien évidemment trop tôt et il suffit de s'intéresser à ce qui se passe dans les hôpitaux en France pour se rendre compte que c'est trop tôt. Évidemment, si Delta disparaît, Omicron est vraiment rassurant. Il y a une étude aux États-Unis très intéressante qui a comparé 52 000 patients Omicron versus 17 000 patients Delta. Dans les 17 000 patients Delta, il y a eu 11 intubés ventilés et dans les 52 000 Omicron, zéro. Voilà, on est face à un virus qui sera moins embêtant, mais le nombre de personnes concernées va tellement être élevé qu'on ne peut pas se réjouir trop vite. On est un petit peu obligé d'attendre les résultats des études anglaises pour savoir exactement ce à quoi s'attendre en France. On ne peut absolument pas dire que la situation elle est sereine pour le moment.
Des propos recueillis par Nina Droff. Après 2 semaines d'intenses débats, c'est aujourd'hui que le projet de loi du pass vaccinal va être définitivement adopté. Un ultime vote doit avoir lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ce pass sera déployé à la fin de semaine prochaine. La manifestation anti-pass s'essouffle. 54 000 manifestants ont défilé hier. Selon le ministère de l'Intérieur, la semaine dernière, ils étaient plus du double.
La fin du suspense. Christiane Taubira, candidate. L'ancienne garde des Sceaux a lancé hier officiellement sa campagne à Lyon.
Une candidature anti-Macron, anti-Zemmour. Quelques propositions ont été détaillées, notamment une allocation de 800 euros par mois pour les étudiants, une revalorisation du SMIC à 1400 euros net. Christiane Taubira a également promis de se soumettre aux résultats de la primaire populaire. Seul problème, tous les autres principaux candidats de gauche, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, ont tous refusé de s'y soumettre.
En tout cas, Clément, cette candidature de Christiane Taubira fait monter la tension d'un cran à gauche. Hein.
Anne Hidalgo sort les crocs dans le JDD ce matin. Elle déclare, je cite, « Aucun candidat ne se retirera, moi pas plus que les autres. » La maire de Paris ne comprend pas l'intérêt de cette candidature, Alexis de La Fontaine.
Séparer, diviser et créer la confusion plutôt que d'unir, voilà comment Anne Hidalgo tacle Christiane Taubira. La maire de Paris sort ses griffes et ajoute « Je ne crois pas dans une candidature de Providence ». Subtilement, elle tient bien à rappeler que la garde des Sceaux se contredit, car sa candidature est une nouvelle fois supplémentaire à celle du PS, faisant écho à sa participation à la présidentielle en 2002, qui fit perdre Lionel Jospin. Bref, Anne Hidalgo ne compte pas laisser Christiane Taubira chasser sur les terres socialistes sans répondre. Sur la primaire populaire, ses mots sont cinglants, ça n'a aucun intérêt et elle est illégitime. Bien qu'elle ait accepté d'y participer en décembre, aujourd'hui elle s'en détache, précisant que le résultat de cette primaire ne changera rien à sa candidature. Enfin, Anne Hidalgo veut faire taire les mauvaises langues sur la division au PS. « Je suis totalement soutenue par le parti et les militants », affirme-t-elle, et en profite pour taper sur ses adversaires. Comparée aux autres, elle dit avoir un parti, des élus, des militants et un programme.
Jean-Luc Mélenchon, lui, veut marquer les esprits aujourd'hui à Nantes. Le candidat de la France Insoumise prépare une expérience inédite lors de son grand meeting. 3000 militants sont attendus pour participer à ce rassemblement original, un meeting immersif et olfactif.
Et on en parlera tout à l'heure avec mon invité à 7h12, Adrien Quatennens, le député La France Insoumise du Nord. À l'étranger, c'est l'heure de la rentrée pour Donald Trump. L'ancien président était en Arizona hier soir pour son premier meeting de 2022.
Une année importante avec les élections de mi-mandat qui se profilent et sur lesquelles l'ancien président entend bien peser. Ce meeting était l'occasion de remobiliser les fidèles de Donald Trump, toujours en admiration devant celui qui, pour eux, est toujours président à FIVA, Fried.
Dieu bénisse Donald Trump et l'Amérique. À Florence, en Arizona, les fans de Donald Trump sont au rendez-vous pour le premier meeting de l'année de leur héros. Sur un terrain vague qui accueille habituellement un festival de country music, certains font la queue depuis une journée, comme Dennis Henn, venu d'Alabama.
Je ne suis allé qu'à 6 meetings, elle 26. Le seul voyage dont j'ai envie, c'est d'aller à un meeting de Trump. C'est phénoménal.
Des stands de souvenirs en tout genre bordent les allées.
ours en peluche I love Trump, casquette fuck Joe Biden, même un décapsuleur avec la photo de Donald Trump qui a fait craquer l'une des participantes.
À chaque fois que je vais au frigo, je veux le voir.
Tous ici partagent une même conviction. Trump s'est fait voler sa victoire en 2020.
Je crois vraiment que Trump a gagné. Je pense qu'il a eu beaucoup de mensonges et d'arnaques et malheureusement, ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas se faire prendre.
Les admirateurs de Trump comptent bien se mobiliser pour les élections de mi-mandat à la fin de l'année. Première étape avant le retour au pouvoir du 45e président des États-Unis. En Arizona, Aviva Fried, Europe 1.
Allez, on termine par une mauvaise nouvelle pour les fans de Céline Dion. On ne verra pas la chanteuse sur scène ces prochains mois.
Elle annule sa tournée nord-américaine pour raison de santé. L'annonce inquiète ses admirateurs, comme nous le confirme le journaliste du magazine Closer, Florian Anselme.
Ils discutent énormément parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'en plus elle a toujours été plutôt transparente sur ce qu'elle avait. Sauf que là, son histoire de spasme musculaire, c'est et ça reste quand même très bizarre. Est-ce qu'il y a une maladie? Est-ce qu'il y a un trouble anxieux, psychologique, physique? Elle n'en parle pas et je pense que c'est fait exprès parce que c'est peut-être plus sérieux qu'il n'y paraît. Une annulation de Céline Dion, c'est un cataclysme sur le plan financier, que ce soit pour les tourneurs, que ce soit pour les salles. Donc c'est pour ça que Céline Dion, quand elle annule, c'est que vraiment, 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 elle peut pas. Elle est peut-être au bout du rouleau. On ne peut que s'interroger.
Des propos recueillis par Siam Spencer. Rassurez-vous, sa tournée en Europe et son passage en France en septembre prochain n'est pas encore concerné par cette annulation.
Allez, le sport en bref. L'équipe de France de hand poursuit son sans faute à l'Euro.
Deuxième victoire en deux matchs. Les Bleus se sont imposés hier face à l'Ukraine 36-23. Et puis en foot, le PSG n'a pas tremblé hier face à Brest. Victoire 2-0.
Merci beaucoup. C'était le journal de Clément Gouiz. À tout à l'heure, Clément. La météo, Valérie Darmon, c'est gris au nord, c'est bleu au sud.
Eh oui, gris au nord avec des précipitations de nouveau, des petites précipitations mais désagréables près des frontières nord et en Bretagne, côté nord, jusque sur le bassin parisien avec des bancs de brouillard givrant et des campagnes bien gelées. Dans l'après-midi, malgré quelques éclaircies vers les Vosges, la Franche-Comté, le Poitou-Charentes et sur la pointe bretonne, éclaircies timides, l'ambiance est assez maussade, quelques flocons tombent aussi sur les Ardennes et le soleil, lui, de son côté, continue de briller toujours au sud, un petit peu comme hier.
Les températures rapidement, Valérie ?
Froide. Ouais. Alors ce matin, entre moins 10 à Brive-la-Gaillarde et 5 degrés à Saint-Brieuc, on est sous les normales de saison légèrement. Et cet après-midi, entre 1 à Épinal ou encore Nevers et 14 degrés à Perpignan et Toulon.
On met la doudoune, merci beaucoup Valérie. À 7h moins 10, on va partir en balade avec Vanessa et Marion. On sera en Savoie, mais également au pied du Mont-Saint-Michel. Mais tout de suite, Philippe Legrand. Voilà, tous les dimanches matin, un invité des archives. On regarde dans le rétro une date, une histoire. Ce matin, la comédienne Elisabeth Bourgine, c'est la vedette de la série Meurtre au paradis sur France 2. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en août 2003. Bonjour Elisabeth Bourgine.
Bonjour Philippe.
Actrice avant tout, le théâtre, la télévision et le cinéma vous applaudissent. On vous réclame sur le grand et le petit écran, mais aussi sur les planches des grandes scènes. Il suffit de voir les audiences de la série Meurtre au paradis, dans laquelle vous triomphez sur France 2, pour comprendre ce lien si fort et si discret que vous avez avec le public. Au conservatoire, vous rencontrez Jacques Weber et Francis Huster. Plus tard, c'est Pierre Granier de Fer qui vous propose le rôle principal dans Cours privé. Elisabeth Bourgine, sensible, sensuelle, inattendue, vous aimez les défis que vous offre le monde artistique. Bientôt, vous serez aux côtés de Gérard Depardieu dans le film Maigret de Patrice Lecomte. Vous aimez aussi cultiver l'amitié, une valeur qui compte. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 1er août 2003, le décès de votre amie Marie Trintignant. Un drame, une cérémonie d'adieu. Catherine Deneuve en témoigne au micro d'Europe 1.
C'était très très émouvant, très dur, très émouvant, très très beau.
Mais très beau.
Oui, c'était rien de conventionnel comme Marie.
Rien de conventionnel comme Marie, nous dit sur Europe 1 Catherine Deneuve. C'était le 1er août 2003, la disparition de Marie Trintignant. Votre amie, 41 ans, femme battue à mort à Vilnius en Lituanie. Pourquoi cette date et ce souvenir de Marie Trintignant aujourd'hui ?
Cette date est pour moi une date qui s'impose tous les ans, que je ne cherche pas, que je n'attends pas, que je ne redoute pas, mais qui s'impose vraiment tous les ans, physiquement, mentalement, parce que chaque 1er août, je réentends cette voix qui dit aux actualités que voilà ce qui s'est passé avec Marie, et que c'est un mélange de douleur, de colère, de révolte, de quelque chose d'assourdissant qui fait que tous les matins du 1er août, je suis mal, mais tous les soirs du 1er août, je suis à nouveau combattante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, il ne faut pas qu'on oublie Marie. Et donc, je repars avec une énergie folle tous les soirs du 1er août.
Elisabeth Bourgine, elle vous donne de l'énergie aussi, au fond, cette mémoire-là de Marie Trintignant.
Comme je l'ai dit, Marie, pour moi, c'est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Ça a été un choc. Ça a été une espèce de coup d'amour à la seconde où on s'est rencontrés. Et cette violence, cette mort absolument effroyable, fait que c'est un mélange de lumière, d'ombre, qui fait que c'est inséparable. Si bien que quand je pense à Marie, je vois son regard absolument magnifique, j'entends sa voix, j'ai une douleur instantanée et en même temps, après, je me dis, mais ça donne un courage fou parce qu'il faut avancer, parce que c'est la liberté, Marie, c'était la liberté, c'était de l'impertinence, c'était de la joie, c'était simplement être bien.
Ma perle turbulente, je vous cite dans la préface du livre qui paraît Marie Trintignant, une vie brisée de Françoise Piazza. C'est comme cela aussi que vous l'aviez vu, cette perle, cette lumière.
Oui, absolument.
Vous l'écrivez aussi, et turbulente parce qu'au fond, elle était imprévisible.
Mais complètement, mais c'est ça qui était formidable. Mais on était bien, c'était pas quelque chose d'imprévisible qui faisait peur, c'était quelque chose d'imprévisible qui libérait, qui faisait, qui disait chiche, tiens, on fait ça.
Un souffle de liberté aussi.
Oui, oui absolument, et puis cette lumière, et puis turbulente parce que personne ne la tenait, parce que même elle, quand elle était assise dans un coin et qu'elle ne bougeait pas, elle était capable de bondir. Et quand on parlait, c'était exactement la même chose. On avait l'impression qu'on parlait de quelque chose de très doux, de très
simple. Elle était discrète, mais finalement, où qu'elle soit, la lumière était là, parce qu'elle la portait en elle.
Bah oui, complètement. Complètement.
Et sa mère, Nadine, avait senti ça dans son regard, au fond, et dans son physique de petite fille, puisqu'elle l'a fait tourner très tôt.
Oui. Et puis c'était en même temps une lumière transperçante, c'est-à-dire qu'elle était intimidante. Moi, je sais que la toute première fois, elle était plus jeune que moi, mais elle m'intimidait parce qu'elle était tellement belle. Elle avait cette voix qui vous transperçait, ce regard. Et puis, on se disait, mais est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'elle attend de moi ? Mais elle, en même temps, c'était un bonheur.
Vous signez donc cette préface. Marie Trintignant, une vie brisée, de Françoise Piazza aux éditions de l'Archipel. Vous dites, bien des fois, je ferme les yeux pour te revoir en naïade, endormie, couchée sur les rochers de Saint-Palais. Je t'entends à nouveau être à tes côtés. Elle est là. Et vous finissez en disant, c'était lumineux.
Marie, elle est pour moi toujours vivante. J'ai beaucoup de mal à en parler au passé. Parce que quand je la vois, je la vois. La voix, c'est pas un souvenir, elle est vraiment là, quoi.
Vous l'avez vu dans cette préface donc, de ce livre, et puis il y a, il faut le signaler aussi sur Arte, bientôt le 26 janvier, le documentaire de sa mère, Nadine Trintignant, qui raconte sa fille Marie. Dans ce monde artistique dans lequel vous étiez avec elle, il y a votre actualité très chargée, hein, cours privé, ce film événement qui nous rappelle une autre époque, c'était le film de Pierre Granier de Fer, il sort en DVD, hein, des souvenirs là aussi, hein. Particulier.
Oh ben oui, parce que Cours privé, c'était ma rencontre avec Pierre Granier de Fer, le premier film d'une trilogie qu'on a fait ensemble, et un personnage absolument magnifique, ambigu, fort. Alors, mon personnage de Jeanne dans Cours privé, je le comparais à un diamant, parce qu'il était lumineux mais coupant.
Alors, il y a aussi dans votre actualité cette série à la télévision qu'on ne peut pas rater. Et quel succès sur France 2, Meurtre au paradis. Là, vous interprétez Catherine Bordet. On vous arrête dans la rue ?
Alors, on m'arrête beaucoup plus en Angleterre qu'à Paris pour ma fameuse Catherine. Je l'aime beaucoup, cette femme, parce que c'est une femme de plus de 50 ans qui est libre, comme l'était Marie, qui est indépendante, autonome, qui a une vie dans la société, puisqu'elle a le bar du village, elle est en même temps mère du village. Elle a toujours de bons conseils, elle veut marier les gens quand c'est possible. En même temps, elle a un humour incroyable, elle a du bon sens. Et comme c'est une série anglaise, elle aime beaucoup mettre les Anglais en boîte.
Et puis, alors là, c'est une autre façon de voir les enquêtes, avec bientôt au cinéma Maigret, revue par le cinéaste Patrice Lecomte, avec vous et Gérard Depardieu. La sortie est annoncée au printemps. Un petit mot
le
quand même.
Le 6 avril, je crois, normalement. Alors, j'ai vu le film hier soir, en plus. On a eu la projection équipe hier soir. C'était c'était bouleversant parce que ce film, ce Maigret avec Depardieu, est incroyable. Il y a un style complètement différent. Patrice Lecomte a fait un film hommage à Maigret, c'est un roman connu, mais qui défend cette jeune morte par amour pour elle. Il découvre cette femme, cette jeune fille, et il veut tout d'un coup protéger cette jeune fille et toutes les jeunes filles qui lui ressemblent. Et le style du film est absolument magnifique. C'est beau, les images sont belles, les décors, les costumes, tout est absolument magnifique. Et mon personnage, je l'aime beaucoup, puisque c'est une femme qui prend en amour aussi toutes ces jeunes filles, en se disant, si je peux faire quelque chose pour les aider, pour les empêcher de tomber, ce serait bien.
Elisabeth Bourgine, vous étiez avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci d'être venue nous raconter, nous rappeler votre amie Marie Trintignant. Et on va se quitter avec elle en chanson, car elle chantait aussi, quelle artiste complète. L'amour partira demain, une chanson dans votre playlist. À bientôt.
Merci Philippe.
Des souvenirs, j'ai des abonnés, vous ne rappelez rien du tout.
Marie Trintignant en 1990, l'amour partira jamais. C'était le choix de l'invité ce matin de Philippe Legrand.
Thierry Dagiral.
6h48, l'essentiel de l'info de ce dimanche. Clément Gouise.
La pression reste toujours forte dans les hôpitaux. 24 544 personnes sont actuellement prises en charge. Par contre, le nombre de patients dans les soins intensifs baisse légèrement depuis 3 jours. Ces services comptent 3852 malades. C'est aujourd'hui que le projet de loi du pass vaccinal va être définitivement adopté. Un ultime vote doit avoir lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ce pass sera déployé à la fin de la semaine. Jean-Luc Mélenchon est attendu aujourd'hui à Nantes. Le candidat de la France Insoumise va proposer un meeting immersif et olfactif. Et puis l'équipe de France de hand poursuit son sans faute à l'Euro. Deuxième victoire en deux matchs, les Bleus se sont imposés hier face à l'Ukraine 36-23.
Merci Johan. Merci Clément, pardon. On n'est pas réveillé ce matin. Allez, dans deux minutes, on fait le plein d'idées week-end avec Vanessa et Marion, direction les Alpes et le Mont-Saint-Michel. C'est votre matinale week-end sur Europe 1. On parle de vous.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors Vanessa, ce matin, on va partir avec vous. Mais là où on s'est arrêté hier avec Marion dans les Alpes.
Bah exactement, pour un rendez-vous incontournable, c'est Delphine Clairaut, avec laquelle on va passer notre week-end dans le Grand Blanc,
mais
qui va nous mettre sur la piste. Écoutez, elle se présente.
Alors je suis musher, je suis vétérinaire et je partage ma vie avec... mon conjoint, qui est musher professionnel et titulaire du DGEPS Attelage Canin et depuis 25 ans maintenant. Et on partage notre quotidien avec un groupe de 97 chiens.
Donc vous avez compris, il faut être en symbiose.
Des chiens de traîneau.
Vous avez compris, donc on est... Et chiens de traîneau.
Oui.
En fait, c'est la grande odyssée Savoie, Mont-Blanc, les amis. Elle existe depuis 2005.
Oui, c'est Marion.
Mais oui, c'est extraordinaire.
Mais c'est le rendez-vous annuel incontournable du chien de traîneau en Europe. 12 jours de course, 400 km, 10 étapes, 600 chiens, 68 musher. Et à l'heure où je vous parle, elle est en train de traverser la haute Maurienne varoise.
Et Delphine, qu'on vient d'entendre, elle participe à la course, elle ?
Alors en général, oui. Cette année, non. D'accord. Mais avec son compagnon, donc Christophe. Et ils vont faire d'autres courses. Mais ils sont bien occupés avec leur chien et l'école que Christophe a créée. Donc c'est Husky Adventure, qui est basée à Aussois et Bessan. Voilà, je prononce bien. Il propose plusieurs formules, dont le baptême découverte. Donc c'est 30 minutes en passager dans l'attelage. Donc là, vous comprenez le comportement évidemment des chiens, leur way to go, vous entendez donc leur foulée sur la neige. Et puis surtout, vous allez pouvoir enfin capter la relation qui est très particulière entre un musher et un chien, parce que de toute façon, il ne répond qu'à la voix. Jamais aux mains, il n'y a pas d'action physique du tout.
D'accord.
Et alors, si vous avez envie d'apprendre un peu plus à conduire un attelage, il existe des formules d'initiation de 2 heures ou même des stages de plusieurs jours. Ça, c'est pour vous, Thierry.
Ouais.
Il va y aller.
Ça vous tente ou pas?
Il n'est pas très grand blanc.
Vous n'êtes pas partant.
Non, pour faire plaisir, je suis d'accord. Alors vous disiez, Vanessa, que la grande odyssée est en Haute-Maurienne varoise, donc on peut les voir passer.
Ouais, alors on les voit passer, c'est un très très beau spectacle, c'est chouette à voir, à filmer, à photographier. Aujourd'hui, ils sont à Bessan, Bessan qui est la capitale nordique des Alpes.
D'accord.
Elle est à presque 1800 mètres d'altitude, ils fêtent leurs 50 ans cette année. Et il y a une nouvelle course aujourd'hui, c'est l'Odyssée des Espoirs. Thierry, c'est pour vous, c'est possible, entre 12 et 17 ans.
Bah, c'est tout moi.
Ils vont parcourir 11 km à travers, donc c'est paysages. C'est très très beau parce que ça va jusqu'au Valsonie, au fond de la vallée. Et puis il y a un super rendez-vous, un bivouac entre mardi et mercredi soir. Incroyable, je vous ai trouvé une super adresse.
D'accord.
Pod Cocon, c'est l'hébergement insolite le plus haut du monde, à 2737 mètres. Voilà, une petite cabane en bois, aménagée
les
à Val-Fréjus.
Les bons plans de Vanessa Zah, merci Vanessa. Marion, avec vous, on va sur le littoral normand.
Et oui, on va récolter ensemble le deuxième légume le plus consommé de France, c'est la carotte.
Ah oui.
Et pas n'importe quelle carotte aujourd'hui, la carotte de la baie du Mont-Saint-Michel.
Elle a toujours poussé en Normandie, la carotte ?
Non, même si aujourd'hui, la Normandie est l'une des régions les plus productrices de carottes.
Ah
alors,
oui,
ce légume racine poussait à l'origine à l'état sauvage, dans ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. Elle était beaucoup plus fine, beaucoup plus fibreuse qu'aujourd'hui. En France, la carotte a été consommée à partir du Moyen-Âge, mais comme plante aromatique. Et il faut attendre en fait le 15e siècle pour que la variété jaune de carotte se propage et se consomme comme légume. Ce sont ensuite les Hollandais qui vont créer notre carotte orange.
Oh,
ça, c'était au 16e siècle. Alors, depuis une cinquantaine d'années, les carottes poussent dans la baie du Mont-Saint-Michel sur des terres très particulières. C'est ce que nous explique Grégory Besnard. Il est producteur de légumes sur la commune du Mont-Saint-Michel et notamment donc de carottes.
La particularité, c'est que nous produisons nos carottes dans un polder. Donc ce sont des terres gagnées sur la mer. La particularité de ces terres-là, c'est qu'elles sont très profondes puisque ce sont des sédiments qui ont été amenés au fil des siècles par les marées. Pour donner un ordre d'idée, on a 27 mètres de tangue. Ce qu'on appelle la tangue chez nous, c'est le sol dans lequel on travaille. Et qui ont malgré tout une structure très différente d'un coin à l'autre des polders. Il y a des zones qui sont plutôt sableuses, d'autres qui sont plutôt limoneuses. C'est un terrain très profond qui permet donc de garder la fraîcheur et d'être très drainant. Donc ça nous permet de produire, alors c'est presque unique au monde, mais des carottes sans irrigation. Les carottes poussent au gré des averses et du soleil.
Et aussi donc dans un cadre extraordinaire avec une vue magnifique sur le Mont-Saint-Michel. Là, les carottes sont à 3 km de vol d'oiseau pour celle de Grégory Besnard de ce mont. Mmh. Ces carottes ont plus de goût que les carottes de garde d'ailleurs, celles qui vont être stockées pendant des semaines dans des frigos.
Ouais.
Alors que là, les carottes de la baie restent dans les terres jusqu'à leur consommation et elles vont garder toute leur qualité nutritionnelle.
Allez, on achète. Mais alors maintenant, il nous faut une petite recette avec des carottes.
Mais oui,
qu'on fait
des carottes rôties, pourquoi pas. Comme ça, on va garder toutes les saveurs de la carotte. C'est tout simple.
Ouais.
On va rouler ces carottes qui vont être épluchées dans un mélange d'huile et d'épices, par exemple du cumin, ça s'accorde très bien ensemble. Une fois enrobées, vous les disposez dans un plat, un petit peu d'eau par-dessus du miel et elles vont cuire tout doucement au four avec un petit peu de coriandre par-dessus au moment du service et c'est prêt. Alors à cette heure-ci, vous n'avez peut-être pas envie de carottes rôties, mais vous pouvez peut-être vous faire un petit jus d'orange, carotte, gingembre,
c'est
parfait pour la pêche, on a la pêche toute la journée.
C'est bon pour le thé.
Mais oui, la pêche.
Merci Marion.
Bien sûr.
Votre recette sur Europe1.fr, le podcast de cette balade sous le nom de Week-end Évasion. Bonne journée à vous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne journée.
Bon dimanche sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est 7h.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'info à 7h, c'est Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Comment éviter les contaminations Covid dans les écoles? Reportage en Alsace où les détecteurs de CO2 entrent dans les classes.
La France insoumise à la pointe de l'innovation, meeting en odorama aujourd'hui à Nantes.
Et puis les sports, l'OM en danger face à Lille ce soir pour rester sur le podium, victoire obligatoire.
Dans la prochaine demi-heure, on parlera de l'embouteillage de candidatures à gauche avec le député insoumis Adrien Quatennens à 7h12. Et puis avec Mathieu Alterman, on évoquera ces chanteurs qui ont disparu des radars mais qui pourtant sont toujours bien vivants. Rendez-vous à 7h23. D'abord, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Les deux tiers nord dans les nuages avec de l'humidité sur le nord sous forme de pluie faible dès la mi-journée, mais des nuages qui s'étendent à toute la moitié nord toute la journée. Au sud, c'est plein soleil et en montagne, un régal.
Et bien sûr, météo complète dans 7 minutes.
Europe 1.
FFP2 capteur de CO2, où en est-on pour éviter la contamination dans les écoles?
On évoquait ce record hier. La semaine dernière, il y avait 14 500 classes de fermées en France, ce qui a poussé les enseignants à descendre dans la rue jeudi aux côtés bien souvent de parents pour réclamer justement plus de moyens. La livraison des masques et l'embauche de contractuels promis par Jean Castex, pour l'instant, ne semblent pas convaincre. Écoutez Rodrigo Arenas, il est président de la FCPE.
Aujourd'hui, ce qui est mis sur la table, ce sont des promesses, comme d'ailleurs comme les tests, comme les masques, qui sont régulièrement mis sur le tapis en disant « mais on a fait, mais on a fait », mais en réalité, on ne voit rien venir sur le terrain. Ce sont les classes qui ne sont toujours pas équipées de capteurs de CO2, de purificateurs d'air quand c'est nécessaire. Et surtout, il n'y a pas aujourd'hui sur la table les enseignants nécessaires pour remplacer ceux qui sont absents. Quand on met en place des créations de postes, mais quand personne ne répond à l'appel parce que les salaires sont trop bas, eh ben, écoutez, ce ne sont que des effets d'annonce. Nous voulons des enseignants dans la classe et pas seulement sur le papier. C'est bien pour ça aujourd'hui qu'on est extrêmement attentif dans le cadre des relations que nous entretenons avec les enseignants, des suites à donner à un éventuel mouvement.
Rodrigo Arenas, président de la FCPE, avec Nina Droff pour Europe 1.
Alors arrêtons-nous sur ces fameux capteurs de CO2. Est-ce que c'est la panacée?
Alors d'abord, il y a peu d'écoles qui en sont équipées, mais tous les spécialistes le disent. C'est un instrument utile pour éviter la propagation du virus. Mélina Fachin nous emmène dans une classe dans le sud de l'Alsace ce matin.
On entoure ici le petit mot.
Dans cette classe de CE1, les 20 élèves ont bien compris l'intérêt du capteur de CO2, le petit boîtier installé à côté du tableau.
Pour ne pas attraper le Covid et s'échanger les microbes.
Ça sonne, ça veut dire qu'il faut aérer les fenêtres.
Et justement, au bout de 3/4 d'heure de cours, le capteur dépasse les 1500 ppm partis par million, le seuil d'alerte. Pour Isabelle Lugat, la maîtresse, garder un œil sur le boîtier est devenu une habitude.
C'est en même temps rassurant, en même temps un petit peu angoissant effectivement de voir monter le taux de CE2. C'est vrai qu'ils sont habitués, ils savent que je le mets en route le matin et qu'il va être en route toute la journée.
La commune d'Ilfurt a été l'une des premières en France à se doter d'un capteur CO2 il y a presque un an, le maire Christian Sutter.
Les enfants sont quand même plus en sécurité dans les locaux. Ça peut leur donner de bonnes habitudes à la maison bien entendu aussi. Aérer toutes les heures pendant au moins 5 à 10 minutes, donc je crois que c'est très positif quand même.
En tout, 64 communes et 150 salles de classe dans le sud de l'Alsace sont déjà équipées en capteurs CO2 pour un budget total de 15 000 euros. Ilfurt, Mélina Fachin, Europe 1.
La lueur d'optimisme dans cette période, la fin du tunnel est en approche.
Oui, c'est ce que nous disent plusieurs infectiologues comme le professeur Alain Fischer. Ils évoquent une potentielle accalmie dans la pandémie en France, mais vers le mois de mars. En attendant, les contaminations se poursuivent. 325 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de personnes à l'hôpital en soins critiques continue de baisser. C'est le troisième jour d'affilée.
La politique à présent et Jean-Luc Mélenchon tient meeting à Nantes en début d'après-midi. Le leader de la France insoumise innove.
Oui, après les hologrammes en 2017, voici le meeting immersif. Imaginez le décor, 3000 spectateurs attendus dans un grand cube. Autour d'eux, des images, des sons et surtout des odeurs. Reportage signé Charles Guyard.
Nous avons toujours voulu utiliser les nouvelles technologies pour mieux diffuser nos idées.
Et la diffusion, pour le coup, sera totale auditive, forcément, mais avec un son, attention, spatialisé, visuel aussi, avec des images projetées sur les quatre grands murs entourant le public et surtout olfactive avec des odeurs. Une innovation qui fait la fierté de Bastien Lachaud. Il est député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis et responsable des événements de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai que le parfum en politique, c'est inhabituel.
Et tout dépend de quelles odeurs on parle, hein, dans un milieu où les boules puantes sont légion. Ici, pas question de se boucher le nez. Au contraire, même malgré le masque, les 3000 spectateurs pourront humer deux essences pour voyager dans les thématiques de l'espace et de la mer abordées dans les discours. Une vraie prouesse.
C'est assez compliqué de diffuser le parfum. Et ensuite, il faut attendre que le parfum s'évacue pour pouvoir en injecter un nouveau. C'est aussi une performance technologique de gérer une diffusion de parfum sur une telle superficie.
Et d'ailleurs, ça sent quoi une campagne de Mélenchon? Pour Paul, jeune militant, c'est une évidence.
Ça sent bon, on va gagner.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui à l'instar de Yannick Jadot et Anne Hidalgo, ne veut pas se soumettre à la primaire populaire. À l'inverse, Christiane Taubira confirme que oui, elle l'a dit hier soir en lançant officiellement sa candidature à la présidentielle.
Alors, est-ce que ça ne se bouscule pas un peu trop au portillon de la gauche? Adrien Quatennens est mon invité juste après le journal.
D'importants dégâts, mais pas de victimes après un tsunami dans le Pacifique cette nuit. Tsunami dû à l'éruption d'un volcan sous-marin dans le secteur des îles Tonga, le risque de raz-de-marée a priori est passé.
L'espoir à présent n'est pas de raz-de-marée, là, de but hier au Parc des Princes.
2-0 face à Brest pour ce match, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, mission accomplie pour les leaders du championnat. Ce soir sur Europe 1, on suit Marseille-Lille. Jean-François Pérez, le club marseillais, n'aborde pas ce match dans de très très bonnes conditions.
En effet, il y a d'abord cette décision de la FIFA qui assombrit potentiellement l'avenir du club. Suite à un conflit entre l'OM et Watford autour du transfert du milieu de terrain Pape Gueye en 2020, l'instance a décidé non seulement de suspendre le joueur pour 4 mois, mais d'interdire l'OM de recrutement pendant 1 an. Le club va faire appel, un appel suspensif. N'empêche, cet héritage empoisonné de l'ancienne direction pourrait causer au club un tort considérable. Entre-temps, et sans polémique possible puisque le joueur était libre, l'OM a officialisé l'arrivée du Congolais Cédric Bakambu, un attaquant expérimenté et hermétique au doute.
Vous savez comment on m'appelle à Kinshasa ? On m'appelle Bakagol, c'est le surnom qui m'a suivi tout au long de ma carrière. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, j'aime la pression, c'est ça qui nous fait nous surpasser entre guillemets. Et le jour où j'aurai plus la pression, j'arrêterai de jouer au football.
Le contrat de l'ancien Sochalien n'étant pas encore enregistré, il ne sera pas sur la pelouse ce soir, pas de premier rendez-vous donc avec les supporters. De toute façon, il aurait été tronqué. Seuls 5000 spectateurs, jauge sanitaire oblige, seront admis au stade Vélodrome ce soir pour ce match crucial pour les deux équipes.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 et OM Lille, c'est en direct intégral ce soir évidemment à 20h45.
Et avec Lionel Rousseau. Merci beaucoup Lénaïque, à tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon. Tiens, Véronique nous dit qu'il fait 3 degrés à Blois, sans brouillard par rapport à hier. Valérie, c'est une France coupée en deux aujourd'hui. Hein.
Oui, le sud qui est au soleil, des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée. Il faut juste patienter un petit peu sur la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine où les nuages bas matinaux et les brouillards givrants retardent un tout petit peu l'arrivée du ciel bleu.
Au nord, ça donne quoi ?
Ça donne qu'au nord de la Loire jusqu'au Grand Est, c'est très différent. Là, on passe la journée sous la grisaille, sous de petites pluies fines façon crachin sur l'île et sa région. Un petit peu de bruine en Bretagne, tout cela qui va se transformer en pluie fine sur un bon petit tiers nord au fil de la matinée et d'ailleurs pour toute la journée, y compris sur le bassin parisien. Soyez surtout prudents si vous circulez dans les Ardennes en raison de petits flocons possibles. Des brouillards givrants ici ou là dans le nord. Les chaussées qui peuvent être glissantes parce qu'il fait froid en plus avec des gelées, les thermomètres qui vont afficher jusqu'à moins 10 dans le Jura ce matin et moins 5 dans les Ardennes. Et cet après-midi, entre 2 en pleine d'Alsace et 7 degrés en Bretagne et dans le sud aux alentours de 14 degrés.
Merci beaucoup Valérie Darmon, on donne bien sûr rendez-vous à 7h30. À suivre l'interview actuelle, Jean-Luc Mélenchon en meeting, on l'a dit à Nantes cet après-midi, et une candidature en plus à gauche, celle de Christiane Taubira, le député La France Insoumise, Adrien Quatennens, avec nous dans un instant. Ne quittez pas, ça se passe sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview actuelle de ce dimanche matin, 7h12. Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Député de la France Insoumise du Nord, bien sûr. Gros meeting de votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, cet après-midi à Nantes à 14h. 3000 personnes pour un meeting immersif, avec de la 3D, avec des odeurs même. C'est beau, c'est cher, mais est-ce que c'est vraiment utile ?
Bien sûr, c'est utile. Vous savez, une campagne électorale, c'est la nécessité de mobiliser, d'intéresser les citoyennes, les citoyens. Et puis, il faut aussi raconter une histoire. Vous vous souvenez qu'en 2017... il y avait eu les fameux meetings avec les hologrammes.
Ouais.
C'est-à-dire que l'innovation technologique, elle fait aussi partie intégrante de la campagne. Nous, il se trouve qu'on est en campagne depuis novembre 2020, donc on a déjà déployé beaucoup d'outils pour cette campagne. Et là, c'est le moment maintenant de l'accélération. On est à moins de 3 mois de l'élection. Donc je crois que ce meeting qui est, vous l'avez dit, immersif et olfactif, c'est une première mondiale en politique, va être un événement, non seulement bien sûr par ses aspects techniques, ça va être un spectacle en quelque sorte, il faut le dire. Mais le but, il ne faut pas l'oublier, c'est de convaincre les gens et de discuter politique. Et Jean-Luc Mélenchon, à cette occasion, profitera de cette technologie pour donner à voir, disons, une vision du monde dans sa globalité.
Alors justement, c'est sa troisième campagne présidentielle. Il est en gros autour de 9-10% dans les sondages. Pourquoi ça a du mal à prendre par rapport, vous le disiez, à 2017 ?
Mais c'est vous qui le dites, puisque en réalité, quand vous regardez les sondages, vous pourriez même aller au-delà, il y a un sondage qui nous donne à 13%. On est dans le même étiage que celui dans lequel nous étions au mois de janvier de l'année 2017, si vous regardez bien. Rappelez-vous qu'en janvier 2017, il y avait même la primaire avec Benoît Hamon, et la suite, vous la connaissez. Et c'est seulement au mois de mars que Jean-Luc Mélenchon fait une percée dans les sondages et passe en quelques semaines de 11 à 19% dans les sondages. Si vous regardez la situation aujourd'hui, je pense que très clairement, tout le monde le voit depuis le début de l'année, dans l'espace, disons, de la gauche, pour le qualifier comme ça, Jean-Luc Mélenchon est très clairement en tête, largement en tête. Et donc, il y a cette dynamique de campagne que nous allons poursuivre. On voit que, également dû à la situation sanitaire, le pays a du mal à entrer dans la campagne présidentielle, encore que ça commence. Et nous, nous savons que notre sort est intégralement scellé à la participation populaire. Ouais. Regardez, quand vous commentez des sondages, monsieur Dagiral, je vous donne ce conseil. Quand vous regardez des sondages, soyez toujours curieux du taux de participation anticipé. Vous allez voir que plus le taux de participation augmente, plus notre score progresse.
Ouais. Mélenchon, donc vous dites 9, 10, vous dites jusqu'à 13, ok. Jadot est à 8, Hidalgo à 4, Roussel, Taubira. Maintenant, les gens qui vous regardent, les gens de gauche qui vous regardent, ils vous disent « Mais c'est quoi ce cirque? Pourquoi tant de monde? Pourquoi tant de miettes finalement ?»
Mais je partage avec vous l'idée qu'il y a des dispersions qui sont inutiles. Vous parlez par exemple de M. Roussel, il aura échappé à personne qu'en 2012 et en 2017, le Parti communiste faisait équipe avec nous. Ouais. Écoutez, moi ce que je vois aujourd'hui, on est à moins de 90 jours de l'élection. On ne va pas continuer jusqu'à la veille à semer le désespoir en disant « Oh là, il y a trop de dispersions ». Non, j'ai envie de dire « Peu importe ». Qu'il y ait de la dispersion dans les candidatures. L'important, c'est que les électeurs, eux, se regroupent autour d'un vote qui leur apparaît comme
efficace. Mais attendez, vous dites peu importe, mais peu importe, ça veut dire que le risque, c'est qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au deuxième tour.
Mais écoutez, aujourd'hui, vous voyez quand même comme la situation est plus ouverte que jamais, M. Dagiral. Rappelez-vous que si on discutait, vous et moi, il y a peut-être quelque chose comme 6 ou 10 mois, vous m'auriez dit, il est à peu près certain que le second tour, ce sera M. Macron face à Marine Le Pen, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous voyez comme moi que ça n'est pas du tout la situation qu'on a nécessairement sous les yeux, avec des sondages, vous pourriez le dire aussi, qui donnent un ticket d'entrée au second tour autour de 15-16%. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois, a fait 19,5%. Donc le jeu est plus ouvert que jamais. Maintenant, c'est vrai, moi j'appelle solennellement celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie que ça change en profondeur, qui ont envie qu'on instaure le partage des richesses, qu'on éradique la pauvreté dans ce pays, qu'on passe à la 6ème République, qu'on fasse la planification écologique. Je leur dis, regroupez-vous autour du vote efficace. Et ce vote, c'est incontestablement celui de Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs fait l'union à la base. Ouais. On a ouvert ce Parlement de l'Union populaire. Vous avez des femmes et des hommes d'engagement extrêmement divers qui rejoignent cette campagne. Donc après, en effet, chacun a ses responsabilités. J'entendais Madame Taubira, vous voyez, et toutes ces affaires de primaire populaire. L'ambition au départ, il semblait que c'était d'avoir des candidatures en moins. Si à la fin, tout ça aboutit à des candidatures de plus, c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Mais il faut maintenant passer à l'action de manière sérieuse. Et la candidature qui est la plus efficace pour atteindre le second tour, c'est évidemment celle de Jean-Luc Mélenchon. Adrien, ça, je pense que désormais, tout le monde le voit.
Adrien Quatennens, ce mandat, il a débuté avec les Gilets jaunes. Il se termine en pleine inflation avec des Français touchés de plein fouet par la crise, par la vie chère. On a le sentiment, finalement, que ça ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon. Les Gilets jaunes, cette révolte populaire, finalement, ça n'a pas ramené cet électorat à Jean-Luc Mélenchon.
Écoutez, encore une fois, c'est vous qui le dites. Moi, j'estime que, y compris notre niveau dans les sondages aujourd'hui, comparativement à la précédente élection, je le redis, est très encourageant. Enfin, encore une fois, quand vous dites « ça ne prend pas », comment vous pouvez dire « ça ne prend pas » alors que l'étiage dans lequel nous sommes est similaire à celui de 2017 et avec une dynamique qui est plus importante aujourd'hui? Non, moi, je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est bien dire que les quinquennats successifs où la même politique est menée sous couvert d'alternance politique, je veux dire, on a eu M. Sarkozy de droite, M. François Hollande qui disait qu'il était de gauche, M. Macron qui dit tout ça n'existe plus, je fais autre chose. Mais en réalité, dans la vie des gens, dans leur quotidien, les choses n'ont pas changé, voire même elles se sont empirées. Ouais. Aujourd'hui, la situation de notre pays, c'est des îlots de richesse toujours plus concentrés au milieu d'un océan de pauvreté. De cela, il faut en sortir. Et la clé pour cela, j'insiste beaucoup, c'est la participation populaire. Il faut que celles et ceux qui ont une colère à exprimer, qui ont envie véritablement que ça change dans leur quotidien, ne désertent pas les urnes. Aujourd'hui, très clairement, il faut leur adresser ce message. L'abstention, vote Macron. Parce que les électeurs de M. Macron, les électeurs de la droite traditionnelle, qui fera ni plus ni moins la même chose que lui, ces gens-là sont mobilisés. Donc il faut que tous les autres, celles et ceux qui nous écoutent, qui à cette heure, peut-être au mois de janvier, n'ont pas encore déterminé leur vote, veille à bien être inscrit sur les listes électorales d'ici au 4 mars et avec un bulletin de vote exprime clairement leurs convictions.
Deux points encore, rapidement, les signatures, vous en êtes à combien aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à combien de signatures?
Écoutez, on arrive doucement aux 400 promesses de parrainage, et je ne vous cache pas que c'est compliqué, c'est-à-dire on a des maires qui ont un pouvoir qu'ils n'ont pas demandé, mais dont les candidats ont besoin, et il faut lancer cet appel solennel et rappeler aux élus qui nous écouteraient que parrainer un candidat à l'élection présidentielle ne signifie en aucun cas le soutenir politiquement. Et moi, je vais être très clair là-dessus. Il y a des maires de la droite républicaine qui nous parrainent, et je les en remercie, parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a ce couperet des 500 signatures. Je crois qu'on aurait besoin, par exemple, de réinstaurer l'anonymat Parce que vous savez, dans plein de conseils municipaux, moi je le vois, les élus qui se disent « j'ai peur que mon parrainage soit entrepris par la population comme un soutien politique », évidemment que ça ne l'est pas. Sinon, il nous faudrait un système comme celui que nous avons proposé avec des parrainages citoyens. On pourrait imaginer par exemple 150 000 parrainages citoyens qui viendraient en quelque sorte se substituer à ces 500 parrainages d'élus qui visiblement, et c'est pas que le cas pour Jean-Luc Mélenchon, il y a d'autres candidats qui sont à la peine, et même mes adversaires, ceux qui sont clairement opposés à nous sur l'échiquier politique, il me paraîtrait absolument grave pour la démocratie qu'ils ne puissent pas concourir à l'élection.
Et David Lisnard, je le dis, un nouveau président de l'Association des maires de France, sera à 10h ce matin l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1. Dernier point, l'école, vous étiez auprès de Jean-Luc Mélenchon jeudi, auprès des enseignants, dans les rues, manifestations. Jean-Michel Blanquer promet plus de contractuels recrutés, 5 millions de masques FFP2. C'est mieux ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire finalement?
C'est une première avancée. Il faut donc saluer la mobilisation des enseignants et des parents d'élèves, qui était une mobilisation très importante, une grève historique ce jeudi 13 janvier. Maintenant, je vais vous dire, ça fait depuis novembre 2020 que nous, on a écrit des tonnes et des tonnes de littérature, pas pour se faire plaisir, mais pour faire des propositions au gouvernement. Mmh. Vous savez, le gouvernement, aujourd'hui, il a pour seule politique le vaccin. Alors nous, on a toujours dit, le vaccin fait partie de la solution. Il fait d'ailleurs tellement partie de la solution qu'il faudrait enlever les brevets pour le rendre accessible partout à travers le monde. Ouais. Mais on ne peut pas faire reposer toute la stratégie sur le vaccin. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques mois, Olivier Véran, dans l'hémicycle, nous disait « quand on sera vacciné, il n'y aura plus de Covid. Le pauvre aujourd'hui, il souhaite un bon rétablissement, mais il a eu les trois doses et il est quand même Covidé comme plein de gens. » Donc il faut d'autres méthodes. À l'école, par exemple, nous avions proposé avec Jean-Luc Mélenchon qu'on réquisitionne des locaux pour dédoubler les effectifs, qu'on installe dans les classes des purificateurs d'air. Ça n'est toujours pas le cas. Ça fait 2 ans qu'on le réclame. Qu'attend-on pour faire autre chose que ces protocoles sanitaires hasardeux dont d'ailleurs les enseignants les apprennent dans un journal payant 2 jours avant la rentrée des classes? C'est pas possible. Et je crois que ce mépris, cette pagaille organisée dans la gestion de la crise sanitaire, maintenant, fatigue les gens. Et on a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, par exemple, oui, installation des purificateurs d'air, dédoublement des salles de classe, des effectifs, recrutement massif, y compris, pourquoi pas, de jeunes qui viendraient suppléer les professeurs pour dédoubler les jauges. Tout le monde est soucieux de la continuité éducative, mais il faut créer les conditions que tout ça se fasse dans le bon ordre et avec une sécurité sanitaire garantie.
Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, avant le meeting ce dimanche de Jean-Luc
Mélenchon.
Rendez-vous
à 14h à Exponente.
Exactement. Grand merci à vous. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h20 dimanche, 16 janvier, l'Info Express. Avec vous, Lénaïque Monnier.
Le pass vaccinal adopté par le Sénat a 187 voix pour, 66 contre. La lecture définitive du texte est prévue à l'Assemblée nationale à 16h. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne sera pas là, étant lui-même atteint du virus. Ce pass vaccinal qui perd en popularité, on apprend dans les colonnes du JDD ce matin que 58% des Français y sont favorables. C'est 5 points de perdu par rapport à la dernière enquête sur le sujet. Moins de convaincus et paradoxalement moins de monde dans la rue pour s'y opposer. Hier, 54 000 personnes ont défilé contre le pass. C'est 2 fois moins que la semaine passée. C'est une candidature qui va diviser. Réponse d'Anne Hidalgo à Christiane Taubira. Dernière candidate en date à gauche qui s'est déclarée. L'ex-garde des Sceaux qui veut rassembler en se soumettant à la primaire populaire. Au Texas, la prise d'otages dans une synagogue est terminée. Tous les otages ont été libérés sains et saufs. Le ravisseur est mort pendant l'assaut donné par la police. Et puis Novak Djokovic est toujours dans l'incertitude à cette heure. Le numéro mondial doit savoir dans les prochaines heures s'il est expulsé ou pas d'Australie et s'il peut défendre son titre à Melbourne. Le tournoi du Grand Chelem, on le rappelle, débute demain.
Merci Lénaïque. Dans un instant, Mathieu Alterman pose son œil sur notre époque. On va parler des chanteurs vivants, mais un peu morts quand même. A tout de suite, merci de commencer la journée avec nous sur Europe 1.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Il porte son regard sur notre époque tous les week-ends à 7h20. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Ce matin, vous nous parlez des chanteurs et chanteuses disparus, mais vivants.
Mais vivants. La semaine dernière, je vous avais parlé du succès des albums posthumes de chanteurs décédés depuis longtemps. Oui. Mais il y a également un phénomène contraire, cependant moins souvent évoqué. Les chanteurs et chanteuses bien vivants, mais qui ont disparu volontairement en changeant de vie, en oubliant la célébrité. Voilà pour vous aujourd'hui un top. Mmh. Où est-ce que t'es passé? Alors, souvenez-vous du groupe Niagara.
Oui. Ah, c'était bien ça.
Star des années 80 et 90, un duo qui remplissait les plus grandes salles et alignait les tubes. L'amour à la plage, Kiki Boom, Assez, Je dois m'en aller pendant que les champs brûlent. Bref, 4 albums, 4 cartons et d'un coup, en 1993, la chanteuse Muriel Moreno dit stop, disparaît et entre quelques clubs en tant que DJ anonyme, puis reprend son véritable nom et se recycle professeur de yoga. Aucun projet de reformation, une compilation qui se vend à près d'1 million d'exemplaires, un mystère total.
Voilà, jeu de mots, c'est la chute de Niagara.
Merci pour ces blagues inédites, Thierry. Passons maintenant à un acteur et chanteur. Une carrière entre les États-Unis et la France. Souvenez-vous de David Charvet.
David Charvet, bien
star
sûr.
Star de la série Alerte à Malibu. Exact. Classé dans le top français avec ceci.
Ah oui,
should I leave, should I stay? Eh bien, il a décidé de partir, le beau David, puisqu'il est dorénavant dans l'immobilier. Il construit des villas provençales en Californie. Absolument. Bref, toujours à Malibu, mais en costume. Alors, autre disparu qui nous manque tant son talent était immense. Diams, bien évidemment, qui a tout quitté depuis 2009 pour la religion,
c'est
laissant un grand vide, des souvenirs impérissables pour tout jeune ayant grandi dans les années 2000. Parfois, il y a des artistes qui ne supportent pas, peut-être qu'on leur dise qu'on les aime. Alors, je ne vais pas vous mentir, Thierry, il y a certains artistes qui nous manquent et d'autres un peu moins. Jonathan Serrada, le premier gagnant de la Nouvelle Star, n'a pas sorti de disque après 2005 et a longtemps vécu à Bali. Nathalie Cardone, numéro 1 en 1997 avec sa reprise d'Hasta Siempre, elle a refait parler d'elle simplement en tant que maman de Jim Bauer, le finaliste de The Voice en 2021. Et enfin, Yannick, gros succès de l'année 2000 avec Ces Soirées-là.
Ces Soirées-là, c'est ça.
Et il s'épanouit incognito en tant que banquier dans les Hauts-de-Seine.
Mathieu, il y en a un quand même qui fait encore plus fort que tout le monde, le plus aimé des Français selon le baromètre annuel.
Mais vous avez deviné, il s'agit bien entendu de Jean-Jacques Goldman. Alors, il a pris sa retraite en 2002 sans avoir le moindre projet de retour. Une vie simple, anonyme, entre Londres et Marseille, pour le chanteur au 100 tubes. Comme quoi, moralité de l'histoire, quel que soit le degré de succès de tous ces exemples, la notoriété est une drogue dure dont on se lasse si vite que devenir anonyme semble parfois encore plus fascinant.
Merci beaucoup Mathieu Alterman, rendez-vous bien sûr le week-end prochain.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans 4 minutes, le journal de 7h30, on va parler de la tension toujours forte à l'hôpital. Un peu de musique pour vous accompagner d'ici là, celle de Kyo sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et on vous lit, bien sûr, avec plaisir sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. On vous y attend avec plaisir. Il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le pic de la cinquième vague semble proche. Pour les infectiologues, le variant Omicron pourrait être moins virulent en mars.
Comment remplacer les professeurs absents pour cause de Covid? C'est le casse-tête du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'application Anjaro pourrait l'aider. Mode d'emploi dans un instant, signé Louise Salé.
On terminera ce journal dans l'espace. On partira à la découverte de l'exposition interstellaire à Enghien-les-Bains.
Dans la prochaine demi-heure, 7h40, la une du JDD, elle est consacrée à Emmanuel Macron et à sa stratégie pour annoncer sa candidature à la présidentielle. 8h moins le quart, ça vous concerne. On va s'intéresser au boom des paiements en ligne. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Prudence sous les brouillards givrants entre le sud-ouest et le nord-est, grisaille et ciel bas sur la moitié nord, ambiance printanière sur le sud et des maximales entre 2 à Besançon et 13 degrés à Montpellier.
Météo complète bien sûr dans 7 minutes.
Europe 1.
Les variants Delta et Omicron mettent à mal les hôpitaux français, les unités Covid s'attendent encore à quelques semaines difficiles.
Une lueur d'espoir cependant, cette cinquième vague pourrait prendre fin en mars. C'est ce que prédisent plusieurs immunologues et infectiologues, comme le professeur Alain Fischer. Un ralentissement du virus lié à la contagiosité d'Omicron. Une hypothèse cohérente selon Benjamin David, infectiologue à Garches.
On a travaillé avec les collègues de l'Université de Versailles-Saint-Quentin sur une modélisation mathématique. Les données qu'on a modélisées, c'est un pic des contaminations là dans les quelques jours qui vont venir et d'ici 8 jours d'hospitalisation, puis à la fin du mois en réanimation. Et ensuite, évidemment, il y aura une décrue, une décroissance où, en effet, on a l'impression qu'à l'issue de cette vague Omicron, tous les éléments sont rassemblés pour atteindre une immunité collective de plus de 90% de la population. Et donc forcément, si on arrive à avoir une immunité, on sait que même si elle est imparfaite, elle va durer un certain temps. Et donc, il est possible qu'on voie apparaître une accalmie après cette vague hivernale qui, bien évidemment, serait une bonne nouvelle si c'était la dernière.
Des propos recueillis par Nina Droff.
Le variant Omicron qui frappe de plein fouet les écoles, de nombreuses classes sont fermées, les cas de contamination explosent, les cas contacts également et de nombreux profs sont placés à l'isolement.
Leur emplacement est une question cruciale. 3300 contractuels vont être recrutés, mais recruter rapidement est une affaire complexe. L'application Anjaro, déjà expérimentée dans certaines académies pour les écoles primaires et maternelles, pourrait améliorer cette gestion des absences de profs. Louise Salé.
Depuis moins d'un an, l'application Anjaro est déployée dans une quinzaine de départements. L'objectif ? Accélérer la procédure de recrutement des remplaçants parmi des noms enregistrés par l'Éducation nationale. Quentin Guilly est le PDG d'Anjaro.
On va avoir accès via des filtres à l'ensemble des professeurs remplaçants disponibles et en fonction des dates du remplacement, de sa localisation, du temps de trajet du professeur, on va pouvoir sélectionner la personne qui nous semble être la plus à même de faire ce remplacement.
Un SMS ou un mail est ensuite envoyé à la personne qui correspond aux critères, un gain de temps pour les académies qui peuvent s'attarder davantage sur la préparation des remplaçants.
Quand vous êtes un professeur remplaçant, bah c'est bête, mais il faut savoir où en est le programme, où en est la classe, s'assurer qu'on arrive au bon moment, qu'on est briefé sur la classe en question.
L'application ne propose pour l'instant que des remplaçants titulaires, salariés à temps plein de l'Éducation nationale, mais elle pourrait étendre sa gestion de recrutement aux contractuels, si recherchée en ce moment par le ministère.
Louise Salé du service Société d'Europe. La politique à présent, quand Emmanuel Macron va-t-il annoncer sa candidature?
Question que se pose ce matin le JDD. Le président hésite entre deux moments, soit fin janvier ou mi-février. Tout dépendra de l'épidémie. Les courbes de circulation du virus sont attentivement scrutées par ses équipes. Christiane Taubira, elle, se lance. L'ancienne garde des Sceaux est candidate à la présidentielle et elle propose une allocation de 800 euros par mois pour les étudiants ou encore une revalorisation du SMIC à 1400 euros net.
Lancement officiellement de la campagne et premier couac pour Marine Le Pen.
Le choix du lieu de tournage de son clip, la cour du Louvre n'a pas du tout plu à l'institution culturelle. Le musée demande le retrait de la vidéo incriminée. La candidate du Rassemblement national n'avait pas demandé d'autorisation.
Et puis une nouvelle polémique pour Éric Zemmour. Ses propos sur les élèves handicapés ont irrité la classe politique.
Le candidat a déclaré lors de son déplacement dans les Hauts-de-France hier souhaiter scolariser dans des établissements à part les élèves en situation de handicap. La secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel, a fustigé hier sur Twitter une déclaration pitoyable. Même son de cloche pour les principaux candidats à la présidentielle.
On va parler à présent des épisodes d'inondations dévastateurs qui sont de plus en plus fréquents. On le sait, on se souvient la semaine dernière des images des intempéries dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore, bien sûr, des crues destructrices de 2019 dans les Alpes-Maritimes.
Et justement, la police municipale de Mandelieu-la-Napoule vient de faire l'acquisition de deux véhicules à chenilles amphibies. C'est une première en France. Un objectif permettre de venir en aide aux populations. Reportage de notre correspondant dans les Alpes-Maritimes, Frédéric Michel.
Blanc et bleu aux couleurs de la police municipale, long d'une dizaine de mètres avec une cabine arrière réservée au transport des personnes secourues, ce véhicule est tout terrain. Le brigadier chef principal Norman est l'un des 7 agents de la police municipale de Mandelieu à avoir été formé à la conduite de ce véhicule amphibie.
Qui est 2,50 m d'eau ou 6 m. C'est un engin qui navigue sur l'eau à l'aide des chenilles.
À Mandelieu-la-Napoule, on a tiré les enseignements des dernières crues dévastatrices. Pierre Boutillon, le directeur de la police municipale.
Les moyens que nous avions jusqu'à présent, notamment les 4x4, sont insuffisants. L'idée, c'était d'avoir des véhicules qui puissent permettre d'aller en tout lieu de la commune, porter secours, rétablir le courant électrique.
À 400 000 euros pièce, l'achat de ces deux véhicules est un investissement pour Mandelieu-la-Napoule. Sébastien Leroy, le maire de la commune.
Les inondations vont se reproduire et de toute évidence, les inondations qui nous attendent seront plus violentes et plus puissantes que celles que nous avons connues. Ils permettent d'évacuer chacun 16 personnes, donc 32 en tout. Ils permettent un transport de matériel important.
La commune s'est aussi équipée d'un PC mobile tout terrain. Mandelieu-la-Napoule, Frédéric Michel, Europe 1.
Allez, une idée de sortie pour terminer. On part à la découverte de l'exposition interstellaire. C'est à Enghien-les-Bains, près de Paris.
Ouais, cette expo regroupe tous les films de science-fiction sur l'espace. Grâce à ces pièces récupérées sur les tournages des longs métrages, on profite d'un aperçu des coulisses des films comme Men in Black, Apollo 13 ou Alien. Et Marie Jiquel pilote le vaisseau.
Bienvenue à bord de la navette Orion de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui en réalité fait une cinquantaine de centimètres. Cette maquette, créée avec la NASA, a servi au film de Kubrick, sorti en 1968, et a été sauvée par des collectionneurs. Julien Dumont est le directeur du musée du cinéma de Lyon.
La particularité du cinéma, c'est que c'est entre guillemets fabriqué que pour une scène, et après c'est censé être détruit. Donc c'est pas des matériaux qui sont pérennes dans le temps, donc on a vraiment mis au point, nous, en interne, des techniques particulières de préservation.
Le crâne service que de la bête d'Alien, la figurine d'un des martiens de Mars Attacks ou encore le costume troublant de Rencontre du troisième type. L'événement raconte l'évolution des effets visuels et pour Alexandre Poncet, le co-commissaire de l'exposition, un film a révolutionné le cinéma.
Après Jurassic Park, on voulait absolument des effets spéciaux parfaits. Tous les studios ont voulu leur Jurassic Park, ont voulu des films utilisant les effets spéciaux par ordinateur.
Surprise de l'événement, la reproduction d'un cockpit de vaisseau spatial pour piloter en vitesse lumière sous l'égide de la combinaison arborée par un certain Buzz Aldrin.
Marie Jiquel, et puis un mot de foot enfin.
Victoire du PSG face à Brest hier soir 2-0 et victoire également de Lens 2-1 face à Saint-Etienne.
L'équipe qui titre ce matin réaliste le score encourageant du PSG hier soir. À un mois du choc contre le Real en Ligue des Champions. Merci Clément Gouise. Le soleil se lève dans 1h, 8h40 ce matin. Le temps de votre dimanche, Valérie?
Oui, tout dépend où pour le soleil. En tout cas, il va faire... Alors, le temps d'aujourd'hui, c'est simple. La France qui est coupée en deux. Des nuages au nord, du soleil au sud, avec quelques petites brunes sur un petit tiers nord. Et puis, cette semaine, il fait moins beau que ce week-end. Non pas dans une situation de blocage anticyclonique. Alors donc, déjà demain, les nuages s'imposent toute la journée sur une majorité des régions, avec quelques brunes encore dans le nord et dans l'est. Sur les Pyrénées, les Alpes frontalières, dans le sud-est, là, le soleil brille. Mardi et mercredi, le temps qui est calme, mais toujours gris, avec quelques éclaircies qui vont apparaître ici ou là. En montagne et dans le sud-est, aucun souci, aucune dégradation, très beau temps. Jeudi et vendredi, l'anticyclone se décale encore plus vers le nord, laissant passer cette fois une faible perturbation qui va descendre de la mer du Nord et qui va donner quelques flocons dans l'est et dans le centre. Près de la Méditerranée, le soleil qui continue de briller. Partout ailleurs, c'est nuageux. Et puis côté température, il va continuer de faire froid. On va être 2 à 3 degrés sous les normales de saison.
Bien, merci Valérie. Restez avec nous, ça vous concerne, c'est à 8h moins le quart. On parlera de quoi, Valérie?
Est-ce que je vous fais un Lydia, Thierry?
Lydia, voilà. C'est ça, c'est par correspondance, enfin par Internet. Non,
c'est
moi,
la
pas ça.
Croissance sensible des applis de paiement entre particuliers. C'est le sujet de ça vous concerne.
Allez, à tout de suite. h 39, mais d'abord la une du JDD avec son directeur de la rédaction. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, à la une du JDD, on voit le président de la République en train de retirer son masque et ce titre Macron suspendu à Omicron.
Le chef de l'État est en effet contraint d'indexer sa déclaration de candidature à la présidentielle sur la situation épidémique. Jusqu'ici, l'épidémie de Covid, si l'on s'en tient à ses stricts aspects politiques, était plutôt considérée par l'exécutif, avec un peu de cynisme, comme un atout dans la perspective de la campagne. Mais au vu de la contagiosité d'Omicron et de l'ampleur de la désorganisation de notre société, elle peut se transformer en embûche pour le futur candidat Emmanuel Macron. Ouais. Deux exemples cette semaine, la grève dans les écoles et les tensions autour des discussions sur le pass vaccinal.
Et puis il y a votre étude d'opinion qui montre un fléchissement de la confiance.
Oui, l'IFOP a réalisé un sondage pour le JDD. Au cœur de l'été, 52% des Français faisaient confiance au gouvernement pour faire face efficacement au coronavirus. Ils ne sont plus que 41%, même effritement sur la capacité de l'exécutif à mener la campagne de vaccination. Lors de l'entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 août, ils lui faisaient confiance à 63%. Ils ne sont plus que 50% alors que le pass vaccinal va s'appliquer dans quelques jours. Et enfin, même la confiance des Français dans la capacité du gouvernement à aider les entreprises en difficulté à cause de la crise, c'était jusqu'ici un point fort d'Emmanuel Macron. Et bien cette confiance, elle s'effrite sur la même période de 61 à 53%.
Cyril, très concrètement, cette situation sanitaire peut avoir des conséquences sur le calendrier de la candidature du président ?
Oui, notre rédacteur en chef politique, David Revaud-Allonne, le raconte dans le journal du dimanche. Il y a deux options. Dans la première, la situation sanitaire ne se dégrade pas, voire s'améliore, et Emmanuel Macron pourrait se lancer dès la fin janvier. Dans la seconde, les stratèges de la Macronie préconisent d'attendre, de, je les cite, « réinstaller le fait que la France a moins fermé qu'ailleurs, qu'on n'a pas confiné, qu'on n'a ni match de foot à huis clos, ni théâtre fermé, et que la croissance et le taux de chômage sont meilleurs qu'ailleurs ». Dans cette situation, ça plaiderait alors pour une déclaration vers la mi-février.
Merci Cyril Petit, directeur de la rédaction du JDD. Rendez-vous politique ce matin, 10h, notez-le bien, le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk recevra le nouveau président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Dans un instant, Valérie Darmon et Roland Pérez, vos questions de vie quotidienne à Roland et le dossier du jour avec Valérie. Aujourd'hui, donc, l'essor des paiements en ligne. Europe Matin Week-end, on parle de vous. A tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
8h moins le quart tous les dimanches, ça vous concerne le dossier de Valérie Darmon et les questions à Roland Pérez. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Valérie, donc, le dossier d'abord. Est-ce bientôt la fin des paiements par chèque et avec des espèces entre particuliers? C'est la question qu'on se pose ce matin, car le paiement en ligne est en plein essor. Quels en sont les enjeux et comment expliquer ce phénomène, Valérie?
Alors, pour rembourser un ami, régler des factures, envoyer de l'argent, un Français sur quatre utilise son smartphone. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter, surtout depuis le Covid d'ailleurs, enfin la Covid. C'est aussi un des effets donc des confinements. Est-ce que vous, Thierry, Roland, vous avez Peli, PayPal, Lydia?
Pas du tout.
Moi, j'ai PayPal.
Ben voilà, vous êtes le Français sur quatre, même si on est trois. Moi aussi, j'ai Peli. Donc voilà. Donc oui, depuis des années, c'est la génération de ma fille qui a incité à le faire. Ces applis, elles sont hyper pratiques. Elles sont très simples d'utilisation. Ces différentes applis ont été lancées en 2018 par de grandes banques françaises qui ont emboîté le pas, ce que faisaient déjà la Suède et les États-Unis. Leur usage a littéralement explosé en 2021. Je le disais à l'instant. Ça marche tellement bien qu'on ne dit même plus « je te fais un virement, mais je te fais plutôt un PayPal ou un Lydia ».
Et pourquoi les banques ont lancé ces applis alors?
Parce que la gestion des chèques et des espèces coûte cher aux banques et donc forcément c'est plus simple.
Valérie, comment ça marche concrètement? On a toujours un peu peur, en tout cas moi, de rentrer son numéro de compte sur une appli.
En général, c'est le passage obligé tout de même. Il faut entrer les numéros de sa carte bancaire après avoir téléchargé une de ces applis pour envoyer ou recevoir de l'argent. Mais c'est vrai que l'offre ne cesse de se diversifier forcément puisqu'elle est croissante. Alors PayPal propose désormais une appli unique digital wallet et avec un simple QR code, vous pouvez faire vos achats. Lydia, aux 5,5 millions d'utilisateurs, voit passer 73 millions de virements par an.
Et Pélib alors?
Alors Pélib, c'est encore plus spécifique et c'est surtout beaucoup plus simple. Il suffit juste de connaître le numéro de téléphone de la personne à laquelle vous voulez virer de l'argent et la banque a juste relié votre numéro de téléphone à votre compte courant et le virement est fait. Alors Pélib est utilisé par plus de 6 millions d'utilisateurs et compte 27 millions d'inscrits. Vincent Duval, vous êtes le président de Pélib. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1 ce dimanche matin.
Bonjour Valérie.
Comment expliquez-vous surtout ce succès grandissant et surtout en pleine expansion de votre appli?
Alors tout à fait, le succès il est effectivement très fort et il est relativement récent. On a constaté une véritable explosion de l'adoption de Pélib depuis Noël 2019. 20, en fait, donc ça fait un peu plus d'un an, que beaucoup de Français, je pense, par l'effet du confinement et puis du Noël que nous avons vécu ces deux dernières années, où nous avons été un peu présents socialement, mais en même temps dans des cercles familiaux un peu restreints. Et du coup, il y a eu beaucoup de cadeaux de Noël qui se sont faits par Pélib. L'usage, en fait, a été beaucoup adopté à ce moment-là et sur l'année 2021, on a vu une adoption par le bouche à oreille se développer très fortement.
Vincent Duval.
Au point qu'aujourd'hui, on a 27 millions effectivement de personnes.
On l'a dit. C'est quoi le profil des utilisateurs? Ils sont jeunes, j'imagine.
Alors, pas tant que ça. En fait, on a un cœur de cible d'utilisateurs qui est plutôt sur la tranche 25-50 ans. Et on voit que sous l'effet de la très forte démocratisation, puisque quand on a 27 millions d'inscrits, on a quasiment la moitié de la population française qui petit à petit l'adopte. On voit donc un phénomène à la fois de rajeunissement, de plus en plus d'étudiants utilisent désormais Pélib et non plus des applications de fintech qui sont moins pratiques, ou aussi des extensions d'utilisateurs vers les retraités.
Pardon de vous interrompre, mais est-ce que c'est pas un peu risqué tout de même de s'identifier avec son numéro de portable? De mettre des numéros comme ça un peu dans la nature, c'est toujours un petit peu inquiétant, non?
Alors, je ne vais pas parler des solutions alternatives de GAFA ou de FinTech, comme on dit, mais pour ce qui concerne Pélib, en fait, Pélib est un service offert par votre banque. Donc, en fait, le numéro de téléphone qui est lié à votre compte bancaire, c'est celui que vous avez vous-même communiqué à votre banque et que vous utilisez au quotidien avec votre banque. Donc là-dessus, en ce qui concerne Pélib, aucun risque.
Merci. Merci à vous, Vincent Duval, président de Pélib. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Valérie, ces applis, est-ce qu'elles vont détrôner un jour, finalement, les banques ?
Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que certaines d'entre elles, hein, comme Lydia, permettent déjà d'investir dans la crypto-monnaie ou de souscrire un prêt ou d'obtenir une carte bancaire. Ouais. Donc, affaire à suivre. Moi, j'ai une dernière question rapide à Roland. On se retourne vers qui s'il y a fraude sur ces applis, Roland ?
Alors, c'est comme pour les fraudes aux cartes bancaires. Il n'y a absolument aucune difficulté. On signale évidemment le vol, par exemple, de son téléphone ou le piratage de sa carte qui a été fait via ses applications à sa banque par lettre recommandée et on est automatiquement, normalement, remboursé. Moi, j'ai un dernier conseil quand même, c'est actionner sur votre téléphone l'action d'effacement des données du portable si on vous vole votre portable ou si on vous le perdez vous-même.
Mm-hmm. Allez, vous restez avec nous dans un instant. J'ai plein de questions concrètes pour vous, Roland. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
8h10, l'Info Express, Clément Gouise.
Jean-Luc Mélenchon attendu aujourd'hui à Nantes. Le candidat de la France Insoumise va proposer un grand meeting immersif et olfactif. Il s'agit d'une première en Europe. Christiane Taubira, candidate à la présidentielle, l'a annoncé officiellement hier à Lyon. Une candidature de trop pour Anne Hidalgo. La maire de Paris ne se prive pas pour le dire dans une interview ce matin au JDD. C'est aujourd'hui que le projet de loi du pass vaccinal va être définitivement adopté. Un ultime vote doit avoir lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et puis du foot, le PSG n'a pas tremblé hier face à Brest, victoire 2-0 et un peu plus tôt, Lens s'est imposé dans les dernières minutes du match face à Saint-Étienne, 2-1.
Merci Clément, à tout à l'heure. On retrouve Valérie et Roland tout de suite.
Réveillez-vous, informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
La deuxième partie de Ça vous concerne avec Valérie Darmon et Roland Pérez, toujours là bien sûr. Deuxième partie, donc, ce sont les questions à Maître Pérez. Roland, question essentielle ce matin. Celle qui concerne plus de 300 000 familles qui peinent à percevoir les pensions alimentaires décidées par le juge ou par les parents en cas de séparation du couple. À partir du 1er mars 2022, un nouveau dispositif va être mis en place pour protéger les familles monoparentales démunies face aux impayés. Comment ça va fonctionner, Roland ?
Alors, c'est l'ARIPA qui va s'y coller. Vous savez ce que c'est, l'ARIPA ?
Non.
C'est l'Agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires qui a vu le jour d'ailleurs. En 2017.
D'accord.
Alors, dans un premier temps, c'était à titre expérimental. Et aujourd'hui, sa mission s'élargit sur tout le territoire. Ça va concerner d'ailleurs toutes les familles qui se heurtent à des impayés. Et Dieu sait qu'il y en a en matière de pension alimentaire. Les parents concernés vont s'adresser à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale. On va donner à la CAF le mandat de s'occuper du recouvrement des pensions. Et l'agence qui emploie maintenant plus de 800 fonctionnaires va aller chercher l'argent sur le compte bancaire des employeurs, s'il le faut, parce que les employeurs ont l'argent, ont les salaires. Vont aller sur le compte bancaire, surtout des personnes concernées, des débiteurs. Peuvent même aller sur les prestations sociales ou sur à Pôle emploi pour le chômage. Donc, on va essayer de recouvrer ces sommes et les payer à ses créanciers, histoire de ne plus avoir à demander, voire à quémander le paiement de la pension alimentaire aux enfants.
Et si vraiment, Roland, le parent qui doit verser la pension est insolvable. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, c'est la CAF qui va verser une allocation de soutien parental qui ne sera pas inférieure à 116 euros par mois.
Là, c'est important. Redites-nous bien comment on met en pratique, en place, ce dispositif de recouvrement.
Alors, on va en ligne sur la CAF, on s'inscrit, ou de la mutualité agricole si c'est pour les agriculteurs.
D'accord.
Tous les renseignements, d'ailleurs, peuvent être obtenus pour pouvoir le faire au 0821 22 22 22, 0821 22 22 22. Aujourd'hui, ce sont les seuls divorces prononcés par le juge qui ordonne le paiement qui peuvent permettre de passer par cette agence.
Ouais.
Mais à partir du 1er janvier 2023, ce sera tous les divorces, par consentement mutuel ou pas, et toutes les pensions alimentaires qui auront été ordonnées.
C'est bien, c'est très concret ça. Deuxième question, Roland. On a reçu de nombreuses questions sur le statut du parent à l'égard de son employeur quand il est obligé de garder son ou ses enfants à domicile parce que l'enfant est soit cas contact, soit souffrant du Covid. Les règles sont vraiment pas très claires.
Elles sont pas très claires et même l'employeur et le salarié ne s'y retrouvent pas. Alors première situation, alors on sait que le télétravail est devenu obligatoire quand il est possible pour un minima 3 jours par semaine et le chômage partiel qui revient en force quand on commence à s'y retrouver. Si la situation est la suivante, s'il s'agit de parents d'un enfant de moins de 16 ans dont l'un des parents doit assurer la garde parce que l'enfant est soit cas contact, soit a eu hélas le Covid, ou encore parce que l'école ou la crèche a fermé, parce qu'on le voit aujourd'hui avec le protocole sanitaire, les écoles peuvent fermer, et là, il n'y a pas de doute, c'est normalement le chômage partiel qui doit être mis en place. Mmh. Et bien sûr, seul un des parents désignés et identifiés peut en bénéficier, on s'en doute. Mais là où ça se complique un peu, c'est que le dispositif de chômage partiel ne peut être mis en place que si le parent concerné ne peut pas télétravailler. Oui. Et donc, dans ce cas-là, c'est là où le conflit naît, car de nombreux postes sont télétravaillables. Mais justement, quand on garde des enfants, s'ils sont en bas âge, on a du mal à travailler avec un ou deux enfants chez soi. Donc là, à partir de là, le conflit va naître et c'est aux parents de se déclarer en arrêt maladie auprès de la MELI. Et là, ça va être un arrêt médical qui va être ordonné et il y aura une prise en charge sans délai de carence.
Troisième question, Roland. Elle a été postée via notre site Facebook par Julie. Je vous pose la question telle quelle. Quand un couple est marié avec un contrat de mariage de séparation des biens, que se passe-t-il côté succession quand l'un des conjoints décède? En d'autres termes, Roland, Julie veut savoir comment le contrat de mariage interfère sur la succession d'un des conjoints. Si je comprends bien, c'est bien ça.
Ouais, c'est exactement la question. C'est exactement la question.
Je ne sais pas si on a rendu la chose plus claire, mais allez-y.
Si, vous l'avez rendu très clair. Bon. Le régime matrimonial, en fait, choisi via le contrat mariage, oui. Met en place, ou pas d'ailleurs avant le mariage, ou même en cours de mariage, une situation qui est celle qui va être, qu'on va découvrir au jour de la succession. Je m'explique. Pour déterminer ce qu'il y a dans le patrimoine de celui qui décède et qui est dévolu aux héritiers, il faut savoir que si le couple était marié avec un contrat de séparation des biens ou pas. Et dans le cas, comme Julie nous le demande, il y a séparation des biens, on va déjà séparer les biens qui appartiennent à l'époux survivant et ceux qui appartiennent au défunt, que ce soit des biens propres ou communs en couple. Et dans ce cas précis de séparation des biens, la succession va se composer alors à la fois des biens propres du défunt et des biens communs achetés ensemble qu'on désigne souvent sous le nom de biens indivis.
Donc Roland, en cas de séparation des biens, l'époux survivant a droit à quoi dans la succession du défunt finalement?
Alors une fois que le patrimoine du défunt est bien déterminé, la succession peut s'ouvrir avec partage entre tous les héritiers du défunt, en ce compris tous les enfants nés d'un premier ou plusieurs mariages, et avec une option qui va s'ouvrir pour l'époux. Soit il prend un quart des biens en propriété, soit un quart en usufruit.
Eh bien, merci à vous. Vos questions comme celle de Julie, hein, bien sûr. Allez-y, c'est sur notre page Facebook Europe Matin Week-end. Venez nous rejoindre. On parlait d'argent avec vous, Valérie Monet, Pink Floyd. Rien que pour vous. Bon dimanche à vous.
Merci.